est dans les dons du Saint-Esprit et les béatitudes. Donc vous avez le titre de votre résumé. Hein, c'est les dons du Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous console. Et le Saint-Esprit, par des souffles en nous, hein, on appelle ça des dons dans la version, si vous voulez, vulgate, la version latine du texte. En hébreu et en grec, c'est plutôt les souffles, les pneumas, les rouards. Donc le Saint-Esprit, pour celui qui est en état de grâce, qui est dans l'amitié de Dieu, exerce un certain nombre de motions, de mouvements, qui nous aident à vivre notre vie chrétienne. Alors on a réparti l'étude... je pense que ça c'est le mien. Il est plus petit que celui d'avant. On a réparti l'étude des dons du Saint-Esprit en suivant une... C'est assez intéressant, enfin je le répète pour ceux qui ont déjà suivi les autres cafés cathés, ça leur remettra en mémoire. Mais c'est intéressant de voir comment là on marche vraiment sur les pas de Saint-Augustin et de Saint-Thomas d'Aquin. Et aussi évidemment de la théologie qui a suivi. Mais essentiellement ces deux auteurs-là qui ont lu l'Évangile et qui ont intégré l'apport de la raison des penseurs grecs, spécialement Platon et Aristote. Platon pour Saint-Augustin, Aristote pour Saint-Thomas. Et alors donc quand ils analysent la béatitude, ils disent voilà les hommes... cherche le bonheur dans un certain nombre de choses. Il y a d'abord un certain nombre de voies erronées qui sont des béatitudes qu'ils appellent bestiales. Donc on a étudié, nous, dans les trois dons du Saint-Esprit qui correspondent à ce qu'on appelle les béatitudes de la fuite du péché. Donc on a essayé de voir comment le Saint-Esprit nous inspirait de garder nos distances vis-à-vis d'un usage immodéré des biens extérieurs avec le don de pauvreté, avec la béatitude de la pauvreté, et le don de la crainte, comment il nous a enseigné à user de la force avec modération pour résister contre la violence, avec le don de douceur et le don de piété, la béatitude des doux, et enfin comment il fallait regarder le monde avec le don de science, donc en envoyant la beauté, tout ce qu'il y a de positif, comme miroir de Dieu, comme ou au moins comme vestige de la puissance de Dieu, mais aussi avec toute sa misère, avec le don de science et la béatitude de ceux qui pleurent. Donc c'est un premier volet des béatitudes de la fuite du péché, qui sont en fait des fausses voies, qu'Aristote déjà qualifiait de béatitudes erronées, enfin, parce que c'est béatitude que sous un rapport, et finalement c'est décevant, l'homme est fait pour plus que ça. Alors après, il y a deux autres zones que j'ai déjà esquissées, qui sont la béatitude de la vie active ou politique dans la vue d'Aristote, hein, parce que pour eux, l'action principale était quand même l'action vertueuse pour le gouvernement de la cité, des citoyens, de ceux qui faisaient partie de ceux qui influençaient les destinées de la cité. Donc dans le système grec, ils étaient assez peu nombreux. Et donc c'est les béatitudes de la vie active qui, pour saint Thomas, sont une préparation de la béatitude. Et je crois qu'Aristote était d'accord avec lui, parce que déjà on y trouve quelque chose, mais c'est quand même un peu insatisfaisant. Et après, les béatitudes de la poursuite de la vérité, qui sont les béatitudes de la vie contemplative. Donc en fait, ces deux grandes voies, on les a commencé à les voir la dernière fois, enfin, avant l'interruption plus ou moins comique de l'agitation locale, là. On a vu la béatitude de ceux qui ont faim et soif de justice, donc correspondant au don de force, donc par lequel le Saint-Esprit nous donne une soif de la sainteté, et en même temps nous donne l'énergie pour poursuivre cette sainteté, cette justice supérieure du royaume de Dieu, malgré les nombreux obstacles qui se présentent. Mais alors il faut maintenant aller plus loin, et voir la béatitude des miséricordieux, qui vient comme tempérer, si vous voulez, la béatitude de la justice, de la faim et la soif de la justice. Et c'est assez intéressant. En fait, quand on revient sur ces grandes perspectives, on s'aperçoit que, c'était déjà une idée que certains penseurs modernes ont eu très fort, comme Hegel disait, la vérité dans le tout. Alors c'est un peu exagéré, la vérité, c'est l'adéquation, c'est la conformité de mon esprit avec le réel. Mais c'est vrai que souvent, se renvoyer au tout dans lequel le réel que je cherche à comprendre est inséré, aide à mieux trouver la vérité. Et c'est vrai que quand on regarde l'Évangile dans une vue d'ensemble, on a une certaine satisfaction, si du moins on le lit avec un minimum de préjugés, disons, si ce n'est favorable, du moins pas trop défavorable, en disant c'est un texte qui vaut la peine, comme les Upanishads Veda, ou comme le Coran, ou comme l'Iliade, ou l'Énéide, ou même peut-être plus, quoi. Hein, moi j'ai lu un peu ces textes-là, et c'est vrai que il y a une grandeur dans tous ces textes, les sentences des sages de l'Égypte, qu'aimait beaucoup Simone Veil, et Cardinal Journet les cite souvent, il y a une beauté un peu angoissante, un peu dépouillée, un peu hivernale, et puis chez les grands penseurs de l'Inde, il y a quelque chose aussi de sauvage et d'extraordinaire en face du foisonnement du monde, mais en même temps, on débouche assez vite sur la déception qu'a analysé Sakyamuni, enfin le fondateur du bouddhisme, et vers la fuite dans le néant qu'au fond il propose comme solution. Donc il y a des grandes choses, si vous voulez, et même encore chez des grands philosophes, ceux qui ont ouvert la porte à la pensée moderne, enfin dans le monde sémite et syriaque, mais surtout dans le monde grec, hein, on a pu dire que les Grecs ont un peu inventé l'intelligence, enfin ils ont au moins inventé l'exercice du logos, c'est-à-dire que l'exercice de la pensée raisonnée, certes on en avait déjà des traces, et des préparations chez les Chaldéens, chez les Égyptiens, et puis certainement aussi dans les civilisations plus lointaines comme la Chine, mais c'est quand même les Grecs qui ont mis en forme une logique dont tous les penseurs modernes, avec Aristote, ont reconnu qu'elle est, elle est comme, si vous voulez, comme la vérité de la table de multiplication, c'est des choses qui tiennent le coup. Et donc, si vous voulez, les Grecs ont mis en forme un peu une démarche de l'intelligence qui nous permet de bien explorer l'humain. Vous voyez, enfin, il y a des penseurs aussi chez les Stoïciens, et chez Cicéron, qui ont beaucoup aimé tout ce qui était humain. C'est pour ça que je crois que nous avons la chance, nous autres occidentaux, enfin les Africains, les Chinois nous le disent quand on les voit, eux qui ont eu des cultures aussi, surtout les Chinois, très très intéressantes, on a eu la chance d'avoir, d'être les héritiers de civilisations qui ont aimé l'humanité. Hein. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Mais cependant, quand on va les regarder de plus près dans l'histoire, dans leur philosophie, dans leur littérature, on s'aperçoit qu'il y a une grandeur et puis une immense déception. Même dans le stoïcisme, enfin avec l'apologie du suicide et avec tout ça, il y a quand même une immense déception. Et dans la force romaine, dans le juridisme romain, il y a aussi la dureté des dents de la louve qui brise les peuples sous ses dents, mais évidemment pour imposer la Pax Romana. Et bon, la colonisation a des avantages. Moi, je suis descendant de colons d'Afrique du Nord, et donc je ne vais pas dire que ça n'a pas que des inconvénients. Je pense que ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, surtout quand on est juste sous les dents, là. Et donc, nous autres Gaulois, on a senti ses dents. Et bon, ça a fait un peu mal sur le coup. Au total, il y a quand même eu du bien aussi qui en est sorti, mais avec quand même une espèce de côté implacable qui est ressorti à la Renaissance. Vous voyez, l'esclavage est revenu à la Renaissance. Il a été pratiquement mis de côté, humanisé, décrédibilisé par l'influence de l'Église progressivement, mais il est ressorti avec le droit romain et le rejaillissement, à mon avis, du faux humanisme ou de l'humanisme coupé de ses sources divines qu'il avait chez les païens, sources divines paganes. Polythéiste chez les païens et source divine monothéiste chez les hébreux et chez les chrétiens qui ont repris l'héritage de Jérusalem et d'Athènes. Et donc il y a quelque chose, vous voyez, d'un peu dur, d'un peu terrible, vous voyez, dans une sagesse humaine qui ne serait qu'humaine, parce que l'homme est insuffisant. Enfin, l'homme, il y a de très beaux passages dans Pascal, je crois que c'est quand même un auteur un peu irritant, c'est qu'il y a des publicistes modernes qui ne l'aiment pas. Charles Maurras en particulier n'a jamais pu s'entendre avec lui, et c'est pas une raison pour ne pas lire Pascal, hein. C'est peut-être Maurras qui a tort sur ce point-là, et sur quelques autres aussi éventuellement, mais ça veut pas dire qu'il a tort sur tout non plus. Mais bon, en tout cas, il était exaspéré par Pascal, qui a un côté exaspérant, c'est vrai, mais c'est quand même un génie. Et Pascal a décrit de façon extraordinaire la misère de l'homme sans Dieu. C'est vrai, c'est objectivement, enfin, avoir un petit peu d'espérance humaine, bon, je vous ai quelquefois donné des témoignages personnels, encore, j'ai pas dit tout ce que je sais, je peux pas le dire, d'ailleurs, avec pas loin de 30 ans de sacerdoce, on voit énormément de choses, c'est magnifique de voir ce que les hommes peuvent faire, et c'est aussi terrifiant de voir un peu ce qu'il y a dans leur cœur et dans le drame de la misère des choses. Bon, alors le christianisme vient là-dessus et se rend compte que la justice toute seule, si vous voulez, ça va pas. Il faut aussi la miséricorde. Oui. De même, la béatitude, donc la béatitude que nous avons vue la dernière fois, il y a deux mois, donc la béatitude, ceux qui ont faim et soif de la justice, avec le don de force, va être adouci par la béatitude des miséricordieux. De même que, voyez, la béatitude des pauvres, avec le radicalisme, voyez, de la fuite des choses qui nous encombrent, voyez, ce que quelqu'un comme les cyniques pousseront au maximum, enfin, laisser tout pour avoir une pauvreté qui permette d'atteindre la vérité, on sent bien qu'il y a quelque chose de grinçant, hein. C'est magnifique parce qu'ils sont capables de dire à Alexandre, pousse-toi de mon soleil, c'est quand même pas mal, fou, hein, quand on sait qu'il était Alexandre. Mais cependant, il y a quelque chose d'un peu grinçant qu'on ne retrouve pas du moins dans la totalité catholique, vous voyez. On le retouche peut-être chez certains qui ont un peu excédé dans un certain domaine. Mais la totalité catholique et la sagesse du catholicisme à des siècles n'aiment pas ce genre de choses-là. Parce qu'elle dit, oui, il y a une recherche de la radicalité, de l'absolu, mais il faut que ce soit tempéré, il faut que le pauvre soit doux. Sinon, il devient fanatique, vous voyez. Il devient un ennemi de l'ordre social. Ben, c'était le danger, vous voyez, des réformes ou des resurgences dites évangéliques au 12e, 13e siècle, qui sont maintenant idéalisés par beaucoup d'ennemis de l'Église, mais qui étaient quand même des destructions à la base par leurs idées contre le mariage, contre le serment, etc. Des destructions fondamentales sous prétexte de retour à l'Évangile, de l'ordre social, et en même temps une évacuation de la bonté de la création comme telle que l'Église n'a jamais admis. Oui, saint Thomas est extraordinaire, saint Thomas dit, la création est bonne, Dieu l'a fait, bon, elle est blessée par le péché. Donc il y a les deux éléments à tenir en compte. Et donc il y a cette béatitude des pauvres, hein, avec le don de crainte, mais il y a aussi la béatitude des doux, il faut se dominer, parce que le sommet de la force, c'est de se dominer soi-même, et donc on ne peut rien faire de bien si on ne conquiert pas le cœur des gens, et si soi-même on ne conquiert pas son propre cœur. Vous voyez, je lisais récemment à propos de, avant qu'il fût élu pape, un interview sur le souverain pontife actuel, enfin une interview, hein, quelqu'un qui était interrogé sur lui et qu'il connaissait. Il disait, c'est un homme qui est, au fond, arrivé à être en paix avec lui-même. Et c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut un certain temps. Hein, et bon, d'après Platon, on peut être c'est 55 ans ou un peu plus. Bon, non, vous avez encore un peu de temps. Mais même à 55 ans, c'est pas évident. Il y a des gens qui sont apaisés avant, et puis bon, on ne sait pas exactement à quel moment on l'est. Enfin, il faut le poursuivre. Et c'est pas si évident que ça. Parce qu'on est toujours avec soi, et donc on peut se tromper un temps, mais pas toujours. Bon. Donc voilà, le christianisme dit qu'il faut être doux même avec soi. Donc vous voyez, il y a un balancement extraordinaire dans les béatitudes, il y a un balancement extraordinaire entre chacune d'entre elles, il ne faut pas la prendre de façon isolée, il faut prendre le déroulement, et vous allez lire dans saint Matthieu, parce que dans saint Luc, elles sont, le deuxième texte des béatitudes, c'est saint Luc, je crois, ou Saint-Marc, je ne sais plus. Et elles sont beaucoup plus de façon sémite, il n'y en a plus que quatre, elles sont très tranchées, bienheureux, et malheur, malheur, c'est très clair, c'est un peu radical, c'est un peu la manière d'une parabole sémitique pour réveiller les gens. Hein, comme lorsque je dis des gros mots, mais là, vous voyez, j'en ai pas encore dit beaucoup. Et voilà. Alors, tandis que dans Saint-Matthieu, ça vous coule dans le cœur, et ça se termine vraiment par des choses très, très suaves, vous voyez le... Il y a une phrase de Bossuet que je vous ai déjà citée, je pense, mais qui est très belle, et que j'aime beaucoup, qui dit le discours sur la montagne, c'est le résumé de l'évangile. Et les béatitudes qui sont au début de ce discours, hein, vous pouvez le lire dans la synopse de Lagrange et Laverne qui est disponible, et qui est une merveille parce que ça permet de lire avec un petit appareil critique pas trop lourd. Et alors il dit, les béatitudes, c'est le résumé du discours sur la montagne. Ils ont la clé, c'est la règle d'or, tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-leur aussi vous-même. C'est cela la loi et les prophètes. Et c'est vrai que quand on réfléchit à ce qu'a fait le Christ, vous voyez, on en parlera sans doute cet été, il y a une clé extraordinaire de ce chiffre qui est l'Ancien Testament, un peu incompréhensible, cette loi, ces prophètes qui sont quand même un peu austères, un peu grands, un peu terrifiants, hein, et ces prophètes qui sont quand même des gens un peu agités, enfin un peu, qui se coulent hors social, mais enfin pour le bien. Et alors en même temps, vous voyez, le Christ arrive, et il est la clé, il est la loi et les prophètes, c'est-à-dire que vraiment, le discours sur la montagne et les béatitudes, il faut les lire en clé christique. C'est-à-dire que ce qu'il dit, il le fait lui-même, vous voyez. En fait, le Christ se décrit lui-même dans les béatitudes. C'est pas un discours purement, c'est ça la difficulté et l'avantage aussi avec la théologie et avec la spiritualité, c'est que c'est pas seulement un discours ou un système. Vous voyez, il y a un système des mondes du M, il y a un système kantien, qui est glacial, vous voyez, qui me fait penser à l'image de, pour moi, enfin c'est aux yeux d'admirable, mais ça me fait penser à l'image par laquelle Dante décrit le cœur de l'enfer, c'est de la glace, quoi. Alors pour moi, Kant, c'est un peu ça, c'est un système, quand vous êtes dedans, vous êtes coincé dans la glace. Alors, il n'y a plus moyen d'en sortir, à mon avis, il n'y a aucune raison d'y rentrer. Mais enfin, il a quand même fait pas mal de dégâts depuis. Mais bon, c'est un grand homme, voilà. Mais vous voyez, c'est pas ça le christianisme, hein. c'est pas un système qui se vante de réfuter tous les objectants. C'est sûr qu'on peut réfuter pas mal de choses, pas tout. Hein. Il y a des questions auxquelles ben, on dit, ben, je sais pas la réponse, voilà. Il n'y a pas forcément de réponse à tout. Et ça, c'est marrant de voir que moi, je suis de formation scientifique, enfin, certains le savent déjà, et je suis frappé de voir que les scientifiques, de plus en plus, se rendent compte que même, je dirais, structurellement, par les, du moins les regards mathématiques et physiques qu'on peut mettre sur la réalité profonde des choses, on se rend compte que tout n'est pas calculable, ni démontrable, ni prédictible. Et même qu'on arrive à mesurer, dans une certaine mesure, modeste quand même, la mesure dans laquelle ça n'est pas prédictible, etc. Donc il y a, à l'intérieur même de l'inconnu, si vous voulez, il y a une certaine, quand même ce qui est extraordinaire, une certaine intelligibilité qui ramène l'homme à l'humilité. Là, depuis 70 ans, je pense qu'une grande partie du scientisme est effondrée parce que les savants, les vrais, hein, je ne parle pas des vulgarisateurs souvent foireux, pas tous, hein, mais certains sont vraiment foireux, se sont rendus compte que c'était encore beaucoup plus complexe et que l'intelligence n'arrivait pas à tout expliquer, l'intelligence physique et mathématique. Alors, intelligence métaphysique, c'est pareil. On n'arrive pas à tout expliquer. On peut se mettre de façon plus ou moins adapté devant la position des mystères. Et c'est ce qu'au fond qu'on cherche à faire en théologie. Mais il n'y a pas, si vous voulez, si vous voulez coincer quelqu'un, hein, et que vous êtes fort, vous y arriverez. Hein. Même un type bien entraîné. Parce que ben, y a toujours celui qui cherche des prétextes, les trouve. Alors je crois qu'il faut lire l'évangile, vous voyez, avec un certain a priori au moins non défavorable, et le voir dans son ensemble, et c'est vrai qu'il y a une grande beauté, surtout parce que le Christ, enfin, à sa suite l'Église, à mon avis, de façon authentique, malgré tous les blasphèmes et les imaginations délirantes qui paraissent dans les journaux vendus, dans les livres diffusés à des dizaines de millions d'exemplaires et dans des films qui vont faire des tabacs, mais où il y a énormément de délires et de copier-coller, de trucs hyper éculés que même des... que même pas mal d'athées, enfin sérieux, ont déjà démonté, mais enfin, ça fait rien, ça marche, puisque ça donne un certain exutoire avec un peu l'esprit du complot. Moi je sais, toi tu sais pas, mais depuis le début, l'Église a voulu te rouler, et en fait Jésus était marié avec Marie-Madeleine, enfin, toutes sortes de conneries comme ça, qui ont été complètement démolies depuis très longtemps, et qui sont aussi stupides et évanescentes que si vous sortiez un système physique sans donner aucune expérience pour le vérifier. Normalement, la communauté scientifique rigolerait. Et donc, si vous faire en histoire aussi, si vous avancez des trucs, sortez des textes. Hein. Et s'il vous plaît, pas l'évangile de Judas, qu'on connaissait déjà depuis Saint-Irénée, et qui prouve plutôt l'absurdité de la secte caïnique qui l'a pondue, que, enfin, ou du moins la radicalité dans la lecture des choses, plutôt que l'inexactitude des évangiles qui, eux, sont attestés même par des païens. Bon, donc ça serait trop long de s'attarder là-dessus, mais ce que je voulais vous dire, c'est que si on voit l'ensemble, c'est quelque chose de très beau. Donc, vous voyez, là, nous allons rentrer dans une deuxième phase, dans la vie active, vous voyez, on n'est plus dans la fuite du péché, hein, on fait l'ascension des béatitudes, bon, il faut toujours être dans la fuite du péché, mais disons qu'on s'en préoccupe moins. Ça va, j'ai l'impression que ça vous stimule, enfin, c'est bien. Et donc, il faut toujours fuir le péché, c'est la vie purgative, mais il faut aussi s'occuper de pratiquer la vertu. Et là, donc, c'est ce qu'on a vu avec la soif, la faim et la soif de justice, et c'est ce qu'on va voir par la béatitude des miséricordieux, qui vient comme atténuer, vous voyez, la radicalité qu'il y a un peu dans la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice, vous voyez, et qui pourraient arriver à des excès, enfin, qui pourraient tomber dans le fanatisme ou dans l'exacerbation. Donc, cette béatitude, comme le don de conseil, qui va nous donner justement le conseil de la miséricorde, vient perfectionner des vertus. Oui, c'est ça que je trouve formidable dans saint Thomas et dans saint Augustin, c'est que pour eux, saint Augustin, c'est vraiment le croisement de toute la sagesse antique et du monde qui arrive au monde actuel, parce que c'est grâce à lui, à Boès, à Denis, à l'Aréopagite qu'on a eu, le pseudo-Aréopagite, qu'on a eu le condensé de la sagesse antique et qu'elle a été christianisée, qu'elle a libéré ses capacités jusqu'à donner finalement une relative autonomie à la philo, à la science, et permettre les réelles avancées de la science et de la technique. Et donc je pense qu'on ne réfléchit pas suffisamment ça dans l'histoire de la pensée. En fait, des gens comme Augustin et Thomas sont vraiment de très très grands... certains philosophes, même tout à fait actuels, le reconnaissent, comme Ferry, je crois, et puis Finkielkraut, évidemment, sont vraiment des très grands libérateurs de la pensée. Et ça, je crois qu'il faut faire l'étude comparative. Vous voyez, si moi, je suis obligé un peu... j'étudie le Coran, l'islam. Est-ce que je vous ferai une conférence en vous disant plus j'étudie, moi je suis emballé. Enfin, je sais pas, c'est grand, c'est intéressant, c'est plutôt les musulmans qui sont intéressants, mais l'islam en lui-même, franchement, moi je sais pas, déjà je l'avais étudié à l'époque où j'étais agnostique et je trouvais que ça tenait pas la route par rapport au catholicisme. Mais maintenant, je trouve encore d'autres raisons, même d'ordre philosophique, parce que vous voyez, ce que je trouve d'un peu embêtant dans ce cas, c'est qu'il n'y a pas la réponse entre la nature et la grâce. Parce que chez Augustin et saint Thomas, vous avez, voyez, les vertus, il faut être prudent, mais on n'y arrive pas suffisamment sans l'aide de la grâce, donc il faut le don de conseil. Et donc la religion vient soigner la nature et la perfectionner, mais elle ne vient pas la détruire. Tandis que dans la perspective, si vous voulez, là je parle de la théologie de la sonna, théologie, disons, à peu près orthodoxe, si vous voulez, pourtant qu'il y ait une orthodoxie dans une religion, il n'y a pas de magistère. Dans la théologie orthodoxe de l'islam, ce qui est révélé n'est pas accessible à la raison, et tenter de faire le moindre démarche de crédibilité, d'analyse critique du Coran et de vérification de lecture interne, etc., c'est un blasphème. Vous voyez ? Et vous devez vous soumettre parce que Dieu a révélé, mais pas parce que c'est raisonnable. Alors les grands philosophes musulmans ont réussi à se défaire un peu de ça, grâce à Dieu, avec des lectures, mais maintenant ils sont malheureusement plus tellement à l'ordre du jour, les Ibn Sina, Ibn Rushd, enfin des gens très de la grande théologie de Bagdad et de l'Andalousie, d'ailleurs c'était des terres où il y avait beaucoup de chrétiens qui ont beaucoup contribué à influencer l'ambiance générale de la culture, donc qui était arabe, pas seulement syriaque aussi, ou espagnol, mais qui n'était pas purement musulmane, hein, c'est très important. Et donc ces gens-là, jusqu'au Xe siècle, ils ont développé cette voie où ils ont montré, de façon très stimulante pour les juifs et les chrétiens, qu'on pouvait être monothéiste comme ils l'étaient, rechercher vraiment dans Aristote et dans Platon des lumières et faire jaillir de cette intuition créationniste qu'ils avaient, d'admettre un Dieu créateur et provident, et de la sagesse antique des lumières extraordinaires. Mais cette voie était fermée, la voie de l'interprétation a été fermée par les califes qui se sont rendus compte que c'était dangereux pour la stabilité politique d'une religion qui ne se confond pas, si vous voulez, avec le politique, mais qui est quand même très 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 intimement liée. Parce qu'en christianisme, quand même, malgré des petits problèmes qu'on peut avoir avec l'Inquisition, avec d'autres, de façon plus ou moins chaude, n'est-ce pas, ça dépend des périodes, quand même, en gros, si vous voulez, au total, on peut faire valoir les arguments de raison, et bon, et on arrive à parler, il faut quand même penser que Copernic était très bien vu à la cour pontificale, bon, etc., et que les systèmes de ce type-là étaient soutenus par des catholiques. Comme je le dis souvent, le système actuellement, le système standard, enfin, ce qui tourne autour du système standard en astrophysique, a été inventé d'abord par un prêtre mathématicien belge, et donc l'Église n'est pas du tout au total, malgré des durcissements locaux, si vous voulez, dans son ensemble, opposé au contraire à la marche de la raison. Et là, le conseil vient perfectionner la prudence. Il ne vient pas se substituer à la prudence. Oui. La prudence, qui est une vertu extrêmement importante, qui est un peu le stabilisateur des vertus. On a besoin, vous voyez, dans chaque œuvre de force, on a besoin de trouver un juste milieu entre la témérité et la pusillanimité. C'est pareil pour la justice, entre le trop et le pas assez, il faut rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est pareil pour la tempérance, il y a un juste milieu dans la société conjugale entre l'insensibilité et puis la dissolution, enfin je sais pas, l'hédonisme, vous voyez, bon, il y a un juste milieu de raison qui conjoint l'harmonie totale de l'homme, le fait qu'il est un être raisonnable, que les enfants doivent apparaître dans un milieu stable, etc. Donc des pas de données qui sont données de raison, avec le fait qu'on est incarné, qu'on a une sexualité, qu'on a une sensibilité, et donc il conjoint harmonieusement ça, mais difficilement bien sûr, à cause du péché. Donc il y a un juste milieu, hein, entre l'insensibilité janséniste et l'hédonisme actuel, il y a un juste milieu qui doit s'éduquer, qui doit se former. Et le juste milieu dans chaque vertu, il est fixé par la prudence. Aristote dit la vertu est dans un juste milieu, telle qui serait déterminée par un prudent, c'est-à-dire par quelqu'un qui s'est entraîné, qui s'est formé, c'est d'où l'importance de l'éducation, qui a formé son caractère et surtout sa raison pour la faire descendre dans la sensibilité, de façon à ce que quand un problème se présente, eh bien, cet entraînement qu'il a commencé à faire sans comprendre par ses parents et son maître d'école, ensuite il a fait de plus en plus librement, arrive à une certaine maturité et de façon assez souple et même agréable, parce que la caractéristique de la vertu, c'est que ça nous fait agir un peu comme un bon joueur de tennis, si vous voulez, il a au bout de quelques balles ou un bon karatéka, au bout de quelques trucs, kata, il est chauffé, quoi. Il peut tout de suite vous mettre KO. Bon, et c'est beau à voir, quoi, ou le patineur, enfin, un peu d'échauffement, mais il y a une espèce, moi j'aime beaucoup comparer à ça, parce que c'est exactement ça, la vertu, c'est pas un impératif qui est casse-pied. Vous voyez, je suis extrêmement modéré aujourd'hui. C'est pas un impératif, tu dois, etc. C'est évidemment, on doit. Mais pourquoi on doit? C'est surtout ça qui est intéressant. On doit parce que c'est. Et c'est la morale thomiste qui a été rappelée par le pape dans Veritatis Splendor et dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est la morale, c'est ce qui sort de ce que nous sommes. C'est le rayonnement de ce que nous sommes. Nous sommes des animaux, d'accord, mais raisonnables et politiques. Et donc, découle de là un certain nombre de trucs, comme il y a une trajectoire pour les corps, hein, une géodésique d'univers, donc, que suivent les corps en fonction de leurs lois physiques, etc., chimiques, il y a des lois, et bien il y a une loi spirituelle qui est celle de la liberté. Si je la suis, je choisirai précisément des choses, je choisirai parce que je construis ma vie. L'homme est le seul être qui construit sa trajectoire, mais il la construit dans la ligne de ce qu'il a déjà en germe, et c'est ça la vertu. La vertu, c'est suivre la nature, ça paraît très curieux pour des gens qui viennent après Kant ou après Luther, pour quels la vertu, c'est s'imposer un carcan. Et puis le suivre, voyez, et pour Luther, pour Kant, qui est comme né en ambiance piétiste, plus il n'y a pas de raison, plus c'est désintéressé, plus c'est moral. Donc et on n'y arrive jamais. Lui-même reconnaissait, c'est pour ça que l'âme est immortelle, parce qu'il lui faut un temps indéfini pour arriver à se dégager de tout son intérêt. Là, c'est pas tout à fait vrai. L'intérêt de soi n'est pas immoral. Si le prof me fait un bon cours, parce que ça lui plaît, parce qu'il jouit un peu en faisant le cours, c'est quand même pas un péché, non? Sinon, il ne taperait pas l'aller-retour en TGV, alors qu'il a plein de petits problèmes à régler par ailleurs. Hein. Et donc, c'est vrai qu'il y a une délectation dans la transmission. Et donc, on y prend un certain plaisir. Mais est-ce que c'est un péché? Attendez. Pour Aristote, la vertu, c'est une excellence et une grandeur, une arrêtée. C'est le même mot qu'a donné Aristocrate. Vous voyez, c'est une arrêtée, c'est une excellence. Et le plaisir est l'accompagnement de l'acte vertueux. L'être qui prend conscience qu'en effet, bon, ben, il fait quelque chose conforme à la raison, et donc sa nature va s'épanouir, même dans la souffrance. Parce que pour Socrate, oui, Socrate est mort dans la joie de respecter la vérité de la nature humaine, qui est de ne jamais mentir. Donc, et attention, la joie n'est pas opposée forcément. La joie peut cohabiter avec la souffrance. Hein. Mais il y a une joie de l'esprit, quoi. Hein, si vous lisez, moi j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, lire les récits du Goulag et du Laocai et autres, parce que là, la nature humaine est à la pointe. Il y a des types, ceux, quelques-uns, qui en sont sortis, et le témoignage qui rentre sur, bon, l'un d'entre eux, qui d'ailleurs, je ne sais pas, n'est pas croyant, disait, mais vous savez, à un moment donné, dans le dépouillement de toute chose, quand on n'a plus rien, il y a la pure joie d'exister. Mais c'est vrai que d'habitude, on n'y réfléchit pas au fait qu'on existe. Parce qu'on est occupé, il y a le train à prendre, il y a le lait qui bouge sur le feu, il y a les impôts à régler, il y a l'augmentation à demander au patron, il y a le CP machin ou le CMA truc qui va arriver, il y a le, bon, tout ça quoi. Il y a la précarité, il y a le machin, il y a l'immigration, il y a le truc, il y a tout. Il y a des tas de sujets de préoccupation et on court, et puis il y a le portable qui sonne, et puis il y a mes 150 messages à dépouiller, et puis enfin toutes sortes de choses très, très intéressantes. Et donc voilà, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de se rendre compte qu'on est heureux, si vous voulez. C'est pour ça qu'on est malheureux, d'ailleurs. Hein, parce qu'il faut arrêter et faire attention avec Simone Veil. Il y a quelqu'un aussi un peu agaçant, Simone Veil, un peu agaçant. Je parle de la philosophe hein, qui est morte en 43. Hein. Elle est un peu agaçante parce qu'elle est vraiment stoïcienne, quoi. Mais enfin, moi, une fois, j'ai visé un de ses bouquins, j'avais besoin de lire ça pour une thèse, et elle m'énervait, parce que vraiment, elle faisait des trucs qui sont quand même métaphysiquement faux. Et j'ai prié en disant, écoutez, si vous êtes au ciel, bah, éclairez-moi pour comprendre ce que vous dites, quoi. Enfin, j'ai une petite confidence comme ça. J'ai compris, je crois que j'ai compris, ça m'a été très utile. Bon, ça, c'est tout à fait comme docteur privé, je vous dis ça. Et je dis pas que c'est forcément pour ça que j'ai compris, mais enfin, peut-être que ça m'a quand même aidé. Et c'était très intéressant ce qu'elle avait. Parce que vraiment, elle a une théorie de l'attention. Vous voyez, Simone Veil insiste beaucoup sur le fait que l'attention est vraiment la mère de toute la vie de l'esprit. Et justement, on vit dans un monde qui est désattentionné. On fait pas attention aux gens. Vous voyez, on regarde pas les êtres humains, quoi. Ce qui est frappant, moi, beaucoup de gens disent ça, c'est pas pour faire de la papolatrie, parce que je suis pas de tradition papolate, mais il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer quelquefois le pape actuel. Et tout le monde le dit, ceux qui l'ont vu, ils vous écoutent, quoi. Vous lui dites quelque chose, il vous regarde dans les yeux, et puis, et voilà, il enregistre, et on voit tout de suite à la répartie qu'il a compris, et qu'il a déjà commencé à trouver une idée pour aider votre problème. Et donc, vous dites, tiens, je suis important pour ce gars-là, quoi. Alors, ça vous fait quand même assez plaisir, parce que c'est la deuxième personne de l'église. Donc, vous dites, ça vous fait plaisir, car déjà, vous êtes un peu séduit, quoi. Hein? Mais ça compte, pourquoi? Parce qu'il a exercé quelque chose de profondément humain. Il a fait attention à vous, quoi. Et donc, là, vous voyez, pour revenir à l'affaire d'Aristote. Donc pour lui, la prudence, vous voyez, a ce rôle tout à fait central qui s'exerce un peu par connaturalité. Vous voyez, c'est-à-dire, je suis vertueux à force d'entraînement, parce que bon, il y a quand même un certain nombre de choses objectives que la raison en trouve dans la nature humaine, qu'on appelle la loi naturelle, que la sagesse des sages approfondit, et tout cela, je l'intériorise, bon, c'est ce qu'on appelle la sainte-hérèse, enfin, en langage moderne, c'est plutôt la conscience, et à partir de là, eh bien, on finit par avoir l'habitude, si vous voulez, de telle sorte que facilement les gens viennent vous consulter. Vous voyez, quelqu'un qui a de l'expérience, si vous voulez, pour défaire une situation embrouillée, parce qu'il a le tact avec les personnes, tout en ayant les connaissances requises, on va le trouver de préférence à d'autres. Enfin, tous les DRH savent ça, quoi. Et maintenant, c'est vrai que c'est un don aussi qui est apprécié. Parce que c'est pas simplement une technique, c'est aussi une vertu. Donc la vertu est utile même dans la vie professionnelle. Enfin, vous êtes déjà rendu compte, j'imagine. Elle fait aussi quelques emmerdes, mais bon, ça ajoute au piment de l'existence, quoi. Mais elle fait aussi quelques avantages. Parce que c'est vrai que le type qui est vertueux, si vous voulez, d'abord vous pouvez compter sur lui, et puis lui-même, par connaturalité, il va vous donner le bon conseil. Et faut de la prudence, c'est ça. Pour Aristote, c'est très frappant qu'Aristote inclut le jugement du prudent dans la définition même de la vertu. Donc il n'y a rien de plus vivant, si vous voulez. Aujourd'hui, je lisais récemment là. C'est dans l'Homme Nouveau, je disais qu'il y a, je crois, nous devons être régis en France par 8000 lois et quelque chose comme 300 000 règlements, ou décrets, enfin, je sais pas quoi. Enfin, on ne sait pas exactement combien, mais ça devient du délire, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu le contraire, il faut un certain nombre de lois, évidemment. Mais si vous en avez trop, ça devient une espèce d'application automatique sans le rapport vital du juge à sa jurisprudence. Et même du père de famille, ou du chef d'entreprise, ou du chef de peloton, à ses hommes qu'il applique à son cas particulier. Et donc c'est ça en fait la véritable justice, si vous voulez, exercée par le vrai prudent. Ça intègre vitalement les données personnelles. Et donc il y a ce qu'on appelle l'équité qui englobe et qui accompagne la justice, qui tient compte de la personne, bon, voilà. Quelquefois on en profite quand on n'a pas de, je sais pas, on paye par chèque, alors que je sais pas, mais ça m'arrive des fois comme ça. Je n'ai pas permis de payer par chèque, je n'ai rien d'autre. Alors, si on veut vous faire confiance à vous, bon alors, hop, on veut un faux chèque parce qu'on a un curé, quoi. Alors, dans quelques cas, ça sert encore. Parce que vous voyez, ad personam, on dit quand même, le curé, il ne va pas me voler en principe. Ça arrive, hein. C'est quand même cette horreur. Et donc, vous voyez, faut dire qu'il faut tempérer aussi avec le jugement de la personne. Et donc, tout ça, c'est pour montrer que, vous voyez, qu'il y a un caractère très vital dans la vertu. Et donc, la vertu de prudence joue un rôle dans la vie chrétienne, parce que sans elle, vous voyez, la prudence, c'est ce qui fait passer les dictées de la charité en action. Vous voyez, c'est intéressant dans le christianisme, parce que chez les philosophes anciens, vous avez un peu comme une séparation, si vous voulez, entre la contemplation et l'action. Il y avait les philosophes, ou les sages archontes pour Platon, qui pensaient dans leur coin, ou qui faisaient des maths, etc., parce que les scientifiques étaient dans l'eau, ou les poètes qu'on redoutait un peu, enfin qui étaient utiles aussi, ils étaient dans leur coin, et puis les politiques qui décidaient la loi sur la boulet, enfin sur l'agora, bon. Et puis les esclaves qui faisaient boulot pratique. 250 000 esclaves pour 10 000 hommes libres. C'est ça la démocratie athénienne, je le rappelle, parce que pour les gens qui sont babas dans l'Antiquité, il faut quand même ramener les pendules à l'horreur exacte. Bon. Et alors ils disaient, il faut choisir, ou bien on est philosophe, et on cherche la vérité, parce que ça prend tout le temps, ou bien on est homme d'action et on cherche le juste milieu des lois. C'est intéressant d'ailleurs, c'est très intéressant. Bon, mais peut-on faire les deux? Oui. Et en fait, parce que si vous voulez, en philosophie, la philosophie pratique ou la philosophie spéculative sont deux choses distinctes. Il y a la poursuite de la vérité et puis l'agir moral, qui évidemment ont des liens de parenté, mais qui sont quand même des domaines autonomes. Dans un cas, on cherche la vérité, et dans un autre cas, on cherche à agir en homme droit, en homme raisonnable, en homme juste. Donc c'est lié, si vous voulez, mais c'est quand même différent. Parce qu'en théologie, il y a une nuance, c'est que tout est réuni en Dieu. Vous voyez, l'alpha et l'oméga se rejoignent. Le but de la théologie, c'est de connaître Dieu dans la partie spéculative et connaître tout ce qu'il a fait, ce qu'on a expliqué un peu dans l'incarnation, la rédemption. Ça, c'est la partie, si vous voulez, dogmatique, c'est la théologie en tant que spéculative. Et puis la théologie pratique, c'est avec le Dieu qui est en nous par le baptême, le rejoindre pour le voir dans la Trinité éternellement. Donc il y a une relation très intime entre la contemplation et l'action. Et tout homme d'action, tout chrétien, est une sorte de contemplatif, si vous voulez, en christianisme, parce qu'il met en action, par la charité et la foi, la Trinité qu'il a déjà dans l'âme et qu'il aspire à rejoindre. Donc c'est très intéressant de voir que, pour que cette charité que nous avons dans l'âme par le baptême, si on ne l'a pas perdue par une faute grave, eh bien, pour qu'elle puisse passer en action, il faut un arbre de transmission. Et il faut donc la prudence qui dicte des ordres, qui d'abord réfléchisse aux solutions, donc avec la sagacité du jugement, qui pèse le pour, le contre, qui voit, il y a tout un travail. La prudence, c'est quelque chose de très intéressant, et finalement d'un peu plus, riche que ce qu'on croit habituellement, vous voyez. Les philosophes décrivent les parties de et tout ce qui peut aider à l'acte de la prudence. D'abord, il y a la mémoire, donc le souvenir des expériences passées. Ensuite, on les enregistre dans l'expérience. Après, il y a le fait d'avoir l'intelligence des principes, d'avoir une synthèse ou une conscience rectifiée par la connaissance des principes. C'est-à-dire on sait qu'il faut faire le bien, qu'il faut éviter le mal, qu'on doit vivre en société, qu'on doit chercher la vérité sur Dieu, enfin, des choses basiques, quoi. C'est un peu perdu de vue dans une civilisation affairiste et de la production comme la nôtre, mais qui sont quand même les fondements indéracinables de l'humain. Quand saint Thomas dit quelle est la loi naturelle, c'est exister, se transmettre la vie, donc tout ce qui concerne la morale sexuelle, etc., vient de là, de cette base-là, vivre en société et chercher la vérité sur Dieu. Et donc ça, c'est vraiment des choses tout à fait de base qui servent dans les principes, si vous voulez, pour le raisonnement. Et après, il y a la docilité qui fait qu'on écoute les conseils de ceux qui ont un peu d'expérience. Et il y a beaucoup de gens, c'est une vertu qui manque beaucoup aujourd'hui, vous voyez. Je trouve, je sais pas, peut-être je suis un peu injuste, mais c'est peut-être pas la docilité ou c'est la vénération ou l'admiration. Il faut admirer quelques personnes. Enfin, cherchez bien, vous trouverez des gens admirés dans votre vie. L'autre jour, il y avait un de nos pères qui interrogeait une équipe et qu'ils avaient fait une petite sortie dans le canoë. T'as une équipe de gars qui sont, j'imagine, un peu ce qu'on estime souvent la crème de la surcrème, quoi. Des bons gars, quoi, des super bons gars. Et il leur dit, bon, maintenant vous allez me dire qui vous admirez. Et ben les mecs, ils étaient 7 entre 17 et 22 ans, ils n'ont rien trouvé. Alors en réfléchissant, on a réussi à leur dire qu'ils avaient quand même, ils admiraient personne. C'est quand même impressionnant. Moi, je crois, quand j'étais petit, j'admirais mon prof de gym, qui faisait des boulets terribles dans le handball, là. J'admirais mon prof de 7e, alors c'était un mythe. Le capitaine de la PMS, mon père, mon grand-père, enfin des tas de gens, quoi. Il y a des tas de gens admirés qui sont sympas. Je sais pas qui j'admire encore, Einstein, enfin. Il y a des tas de gens extraordinaires. Et puis moi, de plus en plus, en vieillissant, j'admire les laïcs. Oui, c'est étonnant. Hein. Du moins, ceux qui persévèrent. Et parce que c'est vrai, quand on vient voir en fait tout ce qu'ils ont apporté, c'est quand même impressionnant de voir ce qu'ils peuvent faire dans un contexte qui est quand même pas forcément favorable. Il y a plein de trucs à admirer, bonsoir. Si on se focalise que sur les merdes qu'il y a chez les gens, évidemment, on va être complètement dépressif au bout de 3 mois. Hein. Ça, c'est clair. Et il y en a. Mais justement, il faut aussi voir ce qu'il y a d'admirable. Et pour ça, il faut être un peu docile. Donc tâchez de faire en sorte que vos gamins, si vous en avez, vous-même, d'abord, il y a des gens admirés, je ne sais pas. Il y a quelques personnes admirables sur la surface de la planète. Et puis l'ingénuité, l'adresse, enfin pour trouver les moyens. Donc il faut une certaine entraînement, il faut le raisonnement, parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir, de voir les conséquences, la précaution, la providence contre les conséquences nocives de ce qu'on peut faire, la circonspection, enfin vous voyez, il y a toutes sortes de vertus qui entourent l'acte de prudence et qui font que, on va finir par trouver, on va d'abord délibérer, la prudence c'est d'abord de délibérer, ensuite de juger et après d'agir. Et ça c'est très important. L'acte principal de la prudence c'est l'action. Parce que beaucoup de gens s'imaginent que la prudence c'est surtout pas de vagues et que j'ai pas d'emmerdement. Hein. Donc on voit un gros matou caché derrière son brin d'herbe qui va bouffer le oiseau, quoi. Et alors là, il fait attention à ne pas faire de bruit. Moi, combien de fois j'ai entendu ça dans la bouche de curé ou même au-dessus des curés, prudence, patience, prière. Attends, d'accord, mais bouge-toi entre-temps, quoi. Enfin, mais il y a aussi l'action, hein, qui fait patience, prudence, machin. Ben d'accord, la patience, on l'exerce surabondamment, enfin, à mon avis. Enfin, pour les tempéraments comme moi, je trouve qu'on l'exerce pas mal. Mais il faut aussi agir, bonsoir. Et le prudence, c'est celui... C'est, si vous voulez, la prudence, c'est l'art du gouvernement. À tel point que pour Aristote, si vous voulez, il y avait de prudence au sens propre que celle des chefs, donc des citoyens. Hein, donc des 10 000 qui commandaient, des magistrats, si vous voulez. Et donc on voit que saint Thomas, c'est en parenthèse pour montrer les bienfaits civilisateurs quand même du christianisme, saint Thomas a fait évoluer la position d'Aristote, il a dit qu'il y a une prudence pour tout le monde. Parce que la prudence est l'art du gouvernement de la vie, et tout homme doit gouverner sa vie. Ne fût-il pas dans les magistrats, où donc il y a une prudence régnative, et probablement la prudence des chefs politiques, et il y a la prudence politique qui est celle de tout le monde, de tous ceux qui ont la nature humaine et qui doivent gouverner leur vie et la part de bien commun qui leur échoit. Mais ça, vous voyez, maintenant on est moins étonné de ces notions-là. Mais c'est très révolutionnaire. Et je crois que quand on étudie bien les systèmes politiques des systèmes complètement où le roi des le chat de Perse ou le pharaon était complètement divinisé. Et il était, si vous voulez, il n'y avait pas de prudence à voir c'est les sujets, sauf c'est les magistrats du pharaon. Donc il y a eu un progrès extraordinaire. Les Romains, déjà, ont fait faire beaucoup de progrès, justement, avec leur conception juridique. Mais c'est le christianisme, si vous voulez, au moins la pensée de saint Thomas, qui l'a vulgarisé en disant chaque homme doit être prudent pour diriger sa vie, qui est une œuvre d'art aussi à faire, et il doit avoir un. Donc il doit juger et donner les impulsions voulues. Donc vous voyez, c'est extrêmement important parce que, aujourd'hui surtout, on vit quand même une période où il y a des études qui sont très longues, prolongées quelquefois un peu indéfiniment, et de façon quelquefois un peu même sottement soutenues par des lois qui obligent les gens, qui ne sont pas faits pour la spéculation. Hein. Donc il y a quelquefois un retard de maturation qui est extraordinaire, et on peut arriver à, justement, je crois, une espèce, il faut essayer de réagir, je ne sais pas comment on peut le faire, contre le fait, en prenant des responsabilités parallèles à nos études, ou des choses comme ça, d'ailleurs ce que font beaucoup de gens, parce que c'est vrai qu'on accède quand même à une vie de responsabilité quand même un peu tardivement, et ça peut favoriser une espèce d'immaturité, quoi, adolescent jusqu'à 30 ou 35 ans. Bon, c'est pas toujours le cas quand même, hein. Il y a des accélérations aussi soudaines qui peuvent se faire, mais c'était pour dire que, si vous voulez, la prudence, c'est pas de rester devant l'océan des possibles. Ça peut même finir par être une schizophrénie, oui. Parce que c'est vrai que si vous choisissez, vous fermez les autres possibles. Mais c'est ça la vie. Et justement, on aura à rendre compte au soir de notre vie, même la trajectoire qu'on a eue devant nous, quoi. Pas de celle qui serait possible en dehors, ou si on aurait pu faire mieux. Combien de fois on voit des gens qui font des plans? Moi je suis frappé dans l'église, c'est pareil aussi comme là. Alors on fait je viens de voir qu'on renforce les structures collégiales de l'épiscopat, machin, truc. Ça suffit, n'en jetez plus, arrêtez les réunions et baladez-vous en métro, faites du stop, je sais pas, voyez les humains, quoi. Mais bougez-vous plutôt que de faire des réunions avec des spécialistes de l'action catholique. Hein, au lieu d'aller voir des agnostiques dans le métro ou des musulmans, je sais pas qui, mais agissez plutôt que de rester en cercle comme ça. Donc je pense qu'il y a une espèce de surcroît, vous voyez, de recul par rapport à, il faudrait que tout le monde machin, il faudrait que, attends, est-ce que tu peux pas faire ce que tu as à faire tout de suite, quoi? Porte la valise de la dame qui n'arrive pas à descendre du train, ce sera déjà ça, quoi. Elle aura un soleil dans la fin de l'après-midi, quoi. Je sais pas, elle se dira, tiens, il y a un mec qui m'a porté ma valise, c'était un beau jeune homme qui me musclait, c'est drap, qui revenait du sport d'hiver, il était jeune, il était beau, bon, elle rêvera pendant 3 heures, c'est sympa. Mais au lieu d'être complètement à dire, ouais, mais c'est injuste parce qu'il y a des exclus, et etc., qu'est-ce que... Attends, mais fais quelque chose pour les exclus au lieu de... Bon. Donc, vous voyez, il y a une question de l'action. Mais alors, maintenant qu'on a dit ça, il faut être prudent, il faut délibérer, il faut juger, donc il y a une sagacité dans les moyens, puis après, il faut agir. Bon, il faut passer à la source. Mais tout ça, ça s'inscrit dans une psychologie de misère. Parce qu'on n'est pas bon en prudence, quoi. Comme on n'est pas bon en tempérance, on n'est pas bon en force, on a des faiblesses. On est marqué par le péché, on est faible. Et donc, il faut que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Et c'est ce qui fait avec le don de conseil, vous voyez. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, si nous sommes en état de grâce, donc là, je rappelle que les dons du Saint-Esprit sont dans toutes les âmes en état de grâce. Hein. Si nous sommes en état de grâce, nous avons le Saint-Esprit qui est présent dans notre âme avec la charité et qui va donc nous mettre dans le conseil de Dieu. Et qui va, non pas supprimer le raisonnement, la délibération, la docilité, mais au contraire, il va mettre de l'huile dans le fonctionnement de la prudence. Et de temps en temps, il va nous aider, si vous voulez, à nous trouver dans la solution. Je préfère dire ça plutôt que de la voir. Parce qu'en fait, on ne la voit pas, mais on se trouve dedans. Et on prend le bon parti. Il y a donc deux rôles, si vous voulez, du Saint-Esprit. Il pallie, si vous voulez, aux déficiences de la prudence humaine, même perfectionnée par la charité. Et de temps en temps, comme, si vous voulez, mais pas de façon charismatique, comme le faisait pour Jeanne d'Arc. Parce que pour Jeanne d'Arc, il le faisait pour elle et pour la mission qu'elle avait. Et pour nous, c'est pour la conduite de notre vie, de notre salut éternel, hein, et le bien qu'on peut faire autour de nous. Bon, là pour ça, et pour chacun d'entre nous, il pallie aux déficiences de la prudence humaine, si nous, moi, on est assez docile, dans la mesure où on reçoit son impulsion, c'est pour ça que l'oraison est une dimension tout à fait fondamentale, s'arrêter de temps en temps dans la vie pour perdre son temps avec Dieu, même en ayant plein de distractions, parce que pendant ce temps, le Saint-Esprit fait quelque chose en nous et on est différent. Et puis à partir de là, eh bien, il y a certaines impulsions et on se trouve finalement sur la bonne voie, parce que le Saint-Esprit a un peu dégagé, nous a fait voir, entre guillemets, obscurément ce qu'il fallait faire, et puis nous a donné la force de le faire. Donc, il va redresser, si vous voulez, notre psychologie de misère, en particulier, il va redresser notre amour propre, vous voyez, parce que souvent, le gros problème, c'est que parfois on ne voit pas, mais c'est qu'en fait, à la base, on ne veut pas voir. Je suis frappé d'une chose, par exemple, pour les vocations. J'ai un ami là qui a un bouquin. Il s'appelle Thierry Dominicain Brecht, un dominicain de la province de Toulouse, avec un beau livre, L'avenir des vocations. Et il dit, bon, peut-être qu'il n'y a pas énormément de gens qui refusent bien en tête une vocation à laquelle ils se croient clairement appelés. Bon, il y en a quand même quelques-uns, mais peut-être pas beaucoup. Mais il y en a beaucoup, dit-il par expérience, pourtant il est plus jeune que moi, mais je peux confirmer son truc, qui font tout pour ne pas entendre. C'est qu'on se démerde pour... on se démerde, c'est pas très difficile, il suffit de se laisser aller, quoi. Pour ne pas entendre l'appel de Dieu. Et c'est pareil pour la conversion au christianisme. Il y a pas mal de gens qui disent « Ouais, mais attends, etc. et tout. » Mais ils ont l'inspiration, je sais pas, de faire un... Pas d'ouvrir un bouquin, ou de regarder un tableau, ou de... Je sais pas, ou de rentrer dans la basilique à Padoue, c'est pas beau, enfin... Bon, mais non, ils y vont pas. Il y a des exemples comme ça célèbres dans la vie des maritains qui racontent un peu... Bon, finalement, le gars a fini par rentrer dans l'église, il avait donné rendez-vous dedans, donc il voulait pas rentrer, pourquoi il voulait pas rentrer? S'il avait peur que Dieu lui mette le grappin dessus, mais c'est du fait qu'il est arrivé après. Mais je veux dire qu'il y a des moyens de se défiler. Or, il y a quand même quelque chose d'un peu irrationnel. Je ne dis pas, défilez-vous si vous voulez, hein. C'est pas moi qui vais dans le péché. Mais quand même, c'est pas malin. Parce que, que dit Pascal, un très fort argument, il dit pour la conduite de notre vie, je ne sais pas, pour choisir votre bagnole ou votre carrière, enfin, vous délibérez, enfin, il y a un minimum d'investissement pour savoir où est-ce que vous allez donner un peu votre potentiel, hein, ou la solution de problèmes un peu délicats. Donc, on investit dans conseils externes, internes, machin, bon, il y a toutes sortes de choses, vous connaissez mieux que moi. Mais pourquoi est-ce que pour l'affaire la plus importante de notre vie, qui est le salut, hein, une demi-heure par semaine, pour ceux qui vont à la messe, hein, ou avec l'aller-retour, ça fait un peu plus, deux heures, disons, et c'est un max, et on tâche de dormir pendant le sermon, surtout s'il est rasoir, ben, c'est assez facile de s'endormir, bon. Mais on va pas chercher l'endroit où je vais avoir le sermon qui va me réveiller, quoi. Mais il faut le faire, quoi. Comme vous cherchez la meilleure station de sport d'hiver, cherchez le truc qui va le plus vous motiver au point de vue religieux. Et c'est pas du tout absurde. Parce que c'est quand même votre salut qui est en jeu. Et c'est quand même assez aberrant, parce que vous voyez, quelquefois les gens vous posent des questions. Mais quand ça s'arrête à la première ou à la deuxième, moi je dis pas que la première était de mauvaise foi. Mais quelquefois, le fil est perdu entre eux. Si ça m'est arrivé dans un cas comme ça, je dis écoutez, l'important c'est pas votre objection sur la présence réelle, c'est l'ordre des questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que le Christ c'est Dieu? Est-ce que l'Église est crédible? Est-ce que vous acceptez de vous demander si l'ordre des questions n'a pas une certaine importance, comme dans tous les domaines scientifiques, d'ailleurs, l'introduction de la problématique est décisive pour le débouché ou non sur la solution ou la démonstration qu'il n'y a pas de solution, dans les cas où c'est imprédictible ou indémontrable. Bon, et bien là, le gars, je m'étais jamais posé le problème comme ça. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je sais pas, il faut prier pour lui, enfin, celui à qui je pense en ce moment. Mais voyez, si, en fait, j'ai une phrase de Saint-Augustin que j'aime beaucoup, que je donne souvent, parce que je crois qu'elle est très éclairante. Saint-Augustin dit, il ne faut pas demander toute la lumière d'un coup. Oui, c'est ce que faisait un peu Simone Veil, elle faisait un catalogue de trucs qui ne sont solubles que de l'intérieur de l'église et encore pas tous. Ce qui reste toujours des ombres, il y a toujours des trucs glauques, Mais même dans l'église, il y a des trucs lourds, à mon avis, pas plus qu'ailleurs, même un peu moins, je crois. Surtout, il y a beaucoup de choses plus belles qu'en dehors, mais enfin quand même. Mais donc ça, c'est notre problème. Mais tout n'est pas lumineux d'un seul coup, mais il faut marcher dans la lumière que tu possèdes, vers la lumière que tu désires. Je fais une très belle phrase d'Augustin, c'est ce qu'il a fait, il a mis 14 ans. Marche dans la lumière que tu possèdes, vers la lumière que tu désires. C'est-à-dire, pose la question que tu peux poser à la personne qui est accessible ou au bouquin qui tombe sous la main, en essayant d'intérioriser la réponse et de voir si à partir de là, un bout de l'horizon ne va pas se dévoiler et tu verras plus loin des choses intéressantes. Comme quand on monte dans les montagnes, on croit qu'on arrive au sommet, mais malheureusement, on vous a vu, il y a encore un sommet derrière. Heureusement, il y a le goûter dans le sac, mais sinon, il y en a marre parce qu'on vous roule, puis une fois en haut, il faut descendre. Enfin, mais voilà, ça c'est par expérience aussi. Mais donc, vous voyez, je crois que c'est important de se dire, bon, est-ce qu'on désire trouver la solution ? La solution, enfin, il n'y a pas de solution, mais enfin, être mis sur la voie qui va nous permettre d'arriver au maximum de vérité. Parce qu'au fond, c'est ça, arriver à la plus grande densité dans le domaine de la vérité. Il n'y a pas de solution à tous les sous-problèmes et à toutes les questions qu'on peut se poser. Donc, il y a l'amour propre qui nous gêne, il y a l'aveuglement, il y a l'égoïsme, il y a l'impatience, et le Saint-Esprit, vous voyez, va venir calmer tout ça. Est-ce qu'on, il va lutter contre l'amour propre, il va nous aider à ne pas être dépassé par l'ampleur et la mobilité des considérants, parce que ça c'est aussi une grande difficulté, même avec les meilleurs ordinateurs du monde, et en les faisant tourner avec toute l'énergie possible pendant toute la durée de l'univers, il y a des problèmes qui ne sont pas solubles. Ça a été démontré. Donc imaginez-vous dans les problèmes humains, des problèmes purement physiques, hein. Et dans les problèmes humains c'est encore pire. C'est encore pire, il y a un tel nombre de grands considérants, il y a une telle... la matière change, les gens changent, etc., les données, l'influence, le prêt-intérêt, par exemple, se présente de façon tout à fait différente dans une civilisation qui n'est pas fondée sur l'échange monétaire ou dans une qui est fondée dessus. Donc, il faut réfléchir avec les bons principes, mais sur cette matière mouvante, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité, mais ça veut dire que c'est extrêmement délicat et qu'il faut être prêt à épouser les plis du réel, vous voyez. Et donc, là, le Saint-Esprit nous aide, vous voyez, à ne pas être trop dépassé par cette ampleur et, au fond, à laisser tomber ce qui est inintéressant. Oui, c'était un peu l'idée dans l'intuition de Simone Weil, enfin dans l'attention se fixe sur ce qui est le noyau de la chose, si vous voulez, en laissant les fausses voies. De même qu'un grand scientifique va trouver ce qui va finalement être l'équation la bonne, parce que finalement, dans son centre de conscience, il y a des voies qui vont se fermer. Ah, ça c'est le génie, si vous voulez, génie pour nous. Mais on a le génie, nous, grâce au Saint-Esprit. Donc on va laisser tomber, oui, il y a des tas de choses, mais finalement, peu à peu, dans l'oraison, dans l'écoute des sages aussi, ça c'est important de... Il faut que vous pensiez aussi vous-même dans votre formation être des exemples, non pas de façon hypocrite et sopo, mais en payant de votre personne, parce que une société où il n'y a pas d'exemple, c'est très difficile de former les gens. Hein, parce que c'est vrai que l'exemple meut davantage que la démonstration. Donc c'est vrai qu'il y a des exemples, donc je vous disais, trouvez les gens admirables, mettez-les en valeur, et si vous êtes chef ou si vous avez à l'aide, c'est ça l'art du chef, c'est de permettre justement le bon potentiel des gens de sortir. Bon, il est chiant, il est assis et tout, mais il fait ça, et si justement il est reconnu en faisant ça, il va être un peu moins chiant dans l'autre truc, quoi. Enfin, il y a des tas de choses que connaissent un peu les gens qui ont à faire ça, mais je pense qu'il faut... Et le Saint-Esprit, vous voyez, nous aide à laisser tomber, c'est ce qu'on dit dans l'oraison du Saint-Esprit, il faut que nous demandons au Saint-Esprit la grâce de penser, de euphronei, c'est un peu difficile à traduire, c'est un mot grec qui signifie sentir justement, ou goûter justement, dans le Saint-Esprit lui-même, ce qui va nous orienter vers la bonne solution. Et puis également écarter les tendances qu'on pourrait avoir à biaiser, vous voyez. Dans la ruse et l'astuce, c'est pas des vertus. Bon, il y a des bonnes ruses de guerre, donc mon papa, etc. J'ai un peu révisé là ça, quelques temps que j'étais un peu fatigué. Il y a quelques ruses de guerre qui sont pas mal, mais disons que ça relève plutôt du domaine de la technique que de la vertu, quoi. Parce que la vertu, ça prend tout l'homme, si vous voulez. La technique, ça produit une œuvre, hein. Donc si vous voulez, la ruse... Alors, maintenant, évidemment, avec Machiavel, on lit la politique, enfin, c'est pour ça quand je vous ai dit la vie active ou la vie politique ou la vie morale pour les anciens, c'est pareil, ça vous a peut-être surpris. Parce qu'aujourd'hui, on a une lecture de la politique qui est ancrée beaucoup plus machiavélienne, hein, ou marxiste, si vous voulez, ou hédoniste, ou hyper-libérale, ou ce qui compte, c'est d'être purement efficace, et à la limite, même dans l'immoraliste le plus complet, quoi. Donc, si vous voulez, voilà. Et ça, c'est malheureusement ancré un peu dans des recoins de la conscience européenne depuis 3-4 siècles, et c'est grave. Parce que la chose vraie, si vous voulez, n'inclut pas l'immoralité, enfin, ou alors par accident, parce qu'on est tombé, parce qu'on a des faiblesses, mais pas à ériger en système, quoi. Donc le Saint-Esprit nous aide à refuser, si vous voulez, les voies de l'astuce, de la ruse, et il nous laisse pas orphelin, et il nous suggère de temps en temps, parce que non seulement il perfectionne l'acte de la prudence, mais de temps en temps il nous suggère, comme a dit Jésus dans le discours après la scène, le Saint-Esprit ne vous laissera pas orphelin, il vous suggérera tout ce que je vous ai dit. C'est-à-dire qu'il va vous réactualiser, si vous voulez, les paroles de l'Évangile au bon moment, en toile de fond, peut-être même ça affleurera, pas toujours à votre conscience, mais quand même. Vous voyez, il y a des cas où ça peut arriver. Vous voyez, vous êtes vraiment énervé contre quelqu'un que vous avez à apporter ou à supporter. Et puis, dans la prière ou en lisant un bouquin, parce que c'est très utile de lire, vous voyez, les histoires de gens, lisez pas que des vies de saints, parce que comme disait l'un d'entre vous, les saints, parfois, ils sont peut-être un peu trop. Maintenant, on écrit des vies de saints où on voit les défauts des saints, donc c'est sympa. C'est mieux, c'est plus sympa. On se dit, tiens, il se mettait en colère, hein, il a étranglé son petit frère quand il était petit, enfin, jusqu'à maman est venue l'empêcher de l'étrangler, mais moi, ouais, c'était un chéuteur épouvantable. Bon, puis, il s'est converti, bon, ça c'est intéressant, quoi. Les saints qui avaient mauvais caractère comme saint Paul, saint Jérôme, c'est imbuvable, saint Bernard, ça lui arrivait aussi, qui a excommunié un autre saint, saint Robert Grosse-Tête, a été excommunié par saint Bernard. Hein. Mais c'est des mecs sympas parce que ça bouge, quoi. Et voilà. Donc, il n'y a pas que des saints dans une niche qui font une énigme. Il y a plein d'eau bénite autour. Bon, et donc lisez des vies de saints comme ça, ou des vies de pas saints, quoi. Mais des gars qui ont fait quelque chose, et c'est quand même intéressant parce qu'on voit que c'est possible. Vous voyez? Et alors le Saint-Esprit, bon, vous dit, vous avez envie de, vraiment, vous êtes en train de lire, puis vous dites, bon, bah, telle personne a tel défaut, mais vous vous souvenez de la poutre et de la paille, quoi. C'est vrai que c'est pour ça qu'il y a une chose qui est assez efficace, c'est d'avoir un peu des amitiés ou des proches avec qui on se voit, dans une relation de confiance telle qu'on puisse dire des choses. Tu sais, si ça s'est passé comme ça, c'est que vraiment t'as été imbuvable parce que t'es... Et d'ailleurs, c'est pas... ça t'arrive de temps en temps, excuse-moi, mais bon... Et évidemment, ça fait un peu mal quand on vous le dit, mais il vaut mieux le dire, hein. Au moins gentiment, si vous avez l'art de le dire, si vous avez l'art d'exaspérer les gens, bon... faites autre chose, quoi. Soyez gentil avec eux, au moins ils s'y attendent pas, ça les surprendra, bon... Mais il y a des gens qui n'ont pas l'art de dire, qui disent exactement ça, ce qu'il faut dire, là. Mais par contre, il y en a qui arrivent à insinuer, et c'est bon. Parce que si on dit jamais rien, c'est la catastrophe, hein. Moi, je me souviens, quelqu'un me disait, méfie-toi des courtisans. Ce sont les pires ennemis de l'autorité. Un roi soleil entouré de courtisans, c'est la catastrophe. Évidemment, on peut gagner des guerres et des trucs, mais c'est la catastrophe. Parce que les mecs, ce qu'ils veulent, c'est bien vu par le pouvoir, mais c'est une catastrophe. Le rôle d'un conseiller, c'est pas de flatter le chef dans le sens du poil. Hein. C'est de lui dire ce qu'il estime, et même en conscience, même si c'est opposé à l'avis du chef. Évidemment, si le chef le casse tout de suite et l'envoie à Camper Corentin, comme quand Richelieu a envoyé le confesseur de Louis XIII, parce qu'il lui avait dit en conscience des trucs qu'il devait lui dire, un bon jésuite, hein, oui, je fais l'éloge d'un jésuite, les gars. Un jésuite admirable, parce que j'en fais l'éloge, envoyé au fin fond de la Basse-Bretagne, c'est tourné il est envoyé à Quimper Corentin pour lui apprendre d'avoir dit la vérité à Louis XIII. Bon. Et bien, c'est lamentable. C'est comme ça qu'on prépare les catastrophes. Donc, il faut écouter aussi les gens vous disent, bon, tu as tel truc, ah mais non, j'ai pas ça, mais parce qu'on admet en général qu'on a tous les défauts, sauf celui qu'on nous dit, quoi. À mon père, moi, vous savez, on peut garder nos parents pendant 3 heures sur les défauts qu'on a. Oh, vous savez, quand j'ai ça, on vous explique que ça ne s'arrive pas. On dit, bon, comme défaut, vous êtes peut-être que vous êtes un peu bavard. Ou un peu bavard. Ah, mais non, écoutez, comme un minimum, il faut communiquer, il faut que vous en exposiez un peu les données du problème. On a compris vos 3 phrases, mais bon. Mais maintenant, il faut beaucoup de patience aussi, parce que c'est vrai que les gens, quelquefois, il y a une confusion entre direction spirituelle, confession, analyse. Alors, c'est vrai que ces éléments-là sont importants, tout est important. Mais quand on se confesse, c'est le péché, c'est circonstances, c'est le nombre de fois qu'on a fait qu'on accuse. Et vous inquiétez pas, le confesseur, c'est un vieux routier comme moi, on a compris assez vite. Hein. Donc c'est pas la peine de faire de dessin. Hein. Le confesseur pose les questions voulues, et on a l'intuition assez vite des bonnes questions à poser. Tiens, voilà un cas de nom du Saint-Esprit, en confession. Moi, j'avais aucune envie de confesser. Je veux bien prêcher, étudier, tout ça, faire des trucs, mais confesser pour avoir toutes les histoires des gens. Et puis en fait, ça se passe très bien, quoi. Non mais c'est vrai, parce qu'on a une grâce, et puis au bout d'un certain temps, on a tellement de trucs, les gens s'imaginent, oh, hey, le père, il va penser des trucs extraordinaires. Mais moi je vais vous dire ce que pense le confesseur, rien. Il y a une grâce, mais il y a une grâce de néantisation. Quoi. Vous pouvez dire que vous avez torturé des types ou tué 6 bonhommes, mais il vous dira peut-être très bien, parce que c'est une manie qu'il a, vous savez, le confesseur, très bien. Mais bon, c'est pas, c'est intéressant, si vous voulez, bon, etc., même des cas de torture, des trucs, bon, ouais, c'est ça. Mais, c'est assez banal, enfin, je veux dire, je veux pas vous vexer, il y a des gens qui sont tellement balèzes dans le mal, hein, qui vont vous raconter des trucs que vous avez... Moi, j'ai lu des bouquins qui sont écrits, alors c'est écrit en latin, donc, rassurez-vous, c'est bien fait que ce soit écrit en latin, bon, ça, les choses passent mieux en latin. Mais, mon premier prof de théologie morale disait, je disais, mais des machins comme ça, ça existe dans la réalité, je lui dis, attendez, tout ce qui est dans le livre, vous le verrez dans la réalité. Ben, je peux vous dire que c'est vrai. Et même d'autres choses que le bouquin n'est pas prévu, quoi. Donc il y a tous les cas, mais c'est quand même un peu banal, parce que ce qui est intéressant, c'est la vertu. C'est que le mec, il a la foi, c'est que le mec, il a l'espérance, c'est que, je sais pas, qu'il fait des actes de miséricorde, ça c'est intéressant. le fait qu'il tue, qu'il viole, qu'il assassine, tout bon. Ça peut servir quelquefois à faire des romans assez mauvais habituellement, sauf si on a du talent. Mais si vous voulez, c'est la tendance de l'humanité, quoi. Monseigneur a-t-elle accouché avec Madame Bidule? Moi, je trouve que c'est plat comme truc. Hein. Évidemment, c'est utile. Bah, ça vaut mieux plutôt qu'aller coucher avec un mec, mais je veux dire. Enfin, non, je suis un peu vulgaire, excusez-moi, mais c'est pour vous dire que de toute façon, c'est pas non plus éblouissant, quoi. Le péché, c'est pas éblouissant, quoi. C'est pas éblouissant. Ce qui est intéressant, c'est au contraire que, justement, le confesseur a la grâce hein, pour donner le bon conseil, quoi. Pour mettre sur la bonne voie et pour ramener les choses à leur juste mesure. Quoi. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit va nous rappeler une parole de l'Évangile. Bon, je critique la paille qu'il y a dans votre oreille, dans vos yeux, mais j'ai une poutre dans le mien. Habituellement, c'est comme ça. Et donc, sachez d'ailleurs que si vous demandez conseil à des amis ou à des... C'est normal que vous ne voyez pas. Je vous le fais remarquer parce que ça, c'est un truc élémentaire de direction spirituelle. Lorsqu'on vous donne le conseil, si vous voulez, ou quelqu'un qui a un tout petit peu d'expérience ou qui vous connaît bien, eh bien, mais c'est un peu faux dans la manière de le dire. Mais vous appuyez pas sur les 5% de faux pour dire « je l'envoie brère ». Parce qu'il y a toujours un peu une façon de dire qui n'est pas bonne, où il y a un ceci, cela. Mais en gros, ça tombe quand même à peu près juste, et c'est normal que vous ne voyez pas, mais lui, il voit. Hein, donc, il faut s'appuyer là-dessus. Et Saint-Esprit, vous voyez, nous aide à, au fond, à dire « bah oui, moi, j'ai des trucs encore plus gros que lui, et une expérience, voilà, fait que... On va admirer, si vous voulez, ce que lui... Parce que vous voyez, il y a une chose aussi que je voudrais vous dire, j'ai peut-être déjà dit, mais je voudrais la répéter, qui est très importante. Il ne faut pas confondre le tempérament et la moralité. Il y a beaucoup de gens qui ont un tempérament de tel et tel type, qui est difficile pour les rapports humains, mais qui ont une bonne moralité parce qu'ils luttent contre. Il y a des gens qui ont au contraire un tempérament qui est beaucoup plus agréable pour telle et telle chose, mais qui sont des vicieux dans tel domaine, ou des monstres. Mais qui sont alors hyper cool, hein. Je vous conseille de l'eau sport, enfin je vous conseille pas, mais c'est sympa d'aller au sport d'hiver avec eux ou au Club Med, enfin quoi que l'on se faire, mais non, des trucs intéressants, parce que ces types-là, ils sont super cool. Sauf le jour où, dans certains cas, vous apercevez que c'est des démons. Ça existe, ça aussi, donc il faut faire attention, faut pas dire un tel est casse-pied, donc c'est un type. Non, justement, ce type, il a peut-être fait des efforts extraordinaires pour dominer la colère, ou l'avarice, ou l'imprudence, ou l'alcoolisme, ou que sais-je, vous voyez. Et donc c'est ça qu'il faut voir. Et si on le voit pas, c'est pour ça qu'il faut pas juger, vous voyez. Parce qu'il y a des gens qui brillent beaucoup et qui en fait sont... C'est très superficiel, on ne peut pas trop compter sur eux. Par contre, il y a des gars qui ne brillent pas. Mais, et donc, voyez, nous-mêmes, quand on, quelquefois, on a tendance à se décourager dans notre lutte contre des défauts, mais moi, je dis très souvent aux gens, ne confondez pas le tempérament qui vous porte à telle chose, à tel vice, si vous voulez, avec la moralité qui lutte contre. Ce qui est important, c'est de lutter, c'est pas de gagner. Hein. Alors, on gagne un peu, mais l'important, c'est de lutter. Moi, je crois que se sauveront les gens qui luttent. Par contre, le mec qui est super content de lui... qui fait rien, qui fait tout le minimum et qui vise à être reçu à 10,001 sur 20, ben il ratera la barre de passage, il se donnera à mon avis. Parce qu'il sera un énorme orgueilleux, quoi. Donc voilà, on va passer maintenant à la béatitude des miséricordieux. Donc la béatitude correspondant au don de conseil. Donc il y a une très belle phrase de saint Thomas que je vous ai mis là au début de ce passage. La justice sans la miséricorde serait de la cruauté. On voit très bien ça dans les histoires du Moyen-Âge ou de l'Ancien Testament ou des Romains. On voit la justice sans la miséricorde et c'est vrai que saint Augustin dans la Cité de Dieu reproche aux Romains leur cruauté. Et pas lui, mais ici des auteurs romains classiques qui montrent à la fois la vertu extraordinaire des très anciens Romains et puis leur cruauté aussi implacable. Donc la justice sans miséricorde, c'est de la cruauté, comme la miséricorde sans justice serait la source du désordre. En fait, la mère de la dissolution, dit saint Thomas. Ça, c'est ce que nous avons un peu sous les yeux, du moins dans certaines versions. C'est qu'on a une omnubilation sur une miséricorde supposée, parce que souvent, ce n'est pas une vraie miséricorde. On voit, par exemple, uniquement le problème du délinquant. Quoi. Et bien, il a un problème, c'est sûr. Mais si le juge, l'éducateur ou le chef ne voit que le problème, si vous voulez, lève toutes les peines qui justement peuvent aider le délinquant à se redresser parce qu'il est pris pour lui d'une pitié qu'il affuble lui-même du nom d'une miséricorde, ben c'est la dissolution, non seulement de l'ordre social, mais même de la chance de rédemption du délinquant qui a un besoin vital de la sanction, à la fois récompense et punition, et aide en même temps pour se rédimer, pour se racheter. Hein, ça, les bons éducateurs sont très forts pour ça. Ils arrivent à donner la sanction et à faire comprendre au délinquant qu'il doit rentrer dedans pour se racheter. Moi, j'ai actuellement le cas d'un type qui était passé chez nous, comme ça, il passait, c'est un gars qui s'était évadé de là du rideau de fer à l'époque, et qui était venu travailler un peu chez nous. Et peu de temps, des années après, la police est revenue demander des renseignements sur lui, et il était en prison certainement pour un ou deux meurtres, je pense. Et on a un rapport avec lui, par écrit, donc il n'a vraiment pas grand-chose, et il est condamné à une très très lourde peine, et heureusement, il a la sagesse de ne pas faire appel, parce qu'il aurait pu encore plus. Parce que comme ce n'est pas un procès médiatique, là, c'est il prend au max. Et là, quand vous êtes donc pour 25 ans derrière les barreaux, je ne sais pas quelle est sa peine, l'incompréhensible qu'il a, mais c'est frappant de voir le changement dans ses lettres. Et ce n'est pas uniquement pour obtenir du fric pour acheter du tabac, je pense. Parce que vraiment, dans ses lettres, il intériorise, il dit « oui, j'ai compris ». Je pense qu'il a dû étrangler une vieille dame, je crois un truc comme ça, oui. Enfin un truc assez banal, mais quand même, enfin aujourd'hui, enfin, je sais pas. Mais je veux dire que le gars, on l'aimait bien, nous, il poussait des tas de jurons, mais il venait d'Europe, d'Allemagne de l'Est. Et il poussait des jurons extraordinaires, je me souviens, un naufrage avait caricaturé, on voyait, il a fait une bulle, vous savez, avec tous les jurons, il y avait des casques à pointe et tout. Parce que quand il y avait une machine qui ne marchait pas, il la démontait, mais vous savez, il arrivait à la remonter. Il a démonté un vieux tracteur, il l'a remonté. Bon, enfin, chez nous, il était calme, il a tué personne. Mais après, donc, il a dit bon. Mais je pense que, vous voyez, pour lui, je crois que si on avait dit, oui, mais le pauvre gars, c'est vrai que c'est un gars, dès le début, il n'avait pas de famille, il est foutu le camp à un champ de mine, il s'est retrouvé je ne sais pas où, et il est passé par Yougoslavie. Bah. Donc, ce gars-là, si on considère uniquement les circonstances atténuantes qu'il faut regarder, et qu'il n'a pas de sanction, bah, il va encore tuer notre bonne femme un peu après, et puis surtout, il ne va pas rentrer en lui-même. Oui. Alors, je ne dis pas que la prison est forcément un système tellement adéquat, mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est que la justice sans. Miséricorde d'une cruauté et la miséricorde sans justice et du désordre. Et donc il faut que la justice et la miséricorde s'embrassent, ce qui n'est pas du tout évident. Oui. Donc le dos conseil va nous faire exercer la miséricorde. Il va nous faire exercer toutes les vertus, mais il atteint son maximum dans la plus haute des vertus dans l'absolu, qui est la miséricorde. C'est-à-dire qu'il va nous faire nous pencher sur la misère de ceux qui ont des défauts. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc c'est une très belle vertu, parce que, vous voyez, c'est une vertu qui est fondée sur un sentiment, parce qu'il y a une affection, vous voyez, la compassion, c'est quelque chose, c'est une affection, c'est une passion. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, hein, vous êtes obligé de vous endurcir, si vous êtes médecin ou avocat ou que sais-je, certaines duretés professionnelles pour ne pas vous effondrer dans tous les cas, mais si vous rentrez trop en empathie, évidemment, vous allez être complètement chamboulé, il vaut mieux passer dans une autre branche. Mais n'empêche que c'est vrai qu'il y a un élément de compassion, et pour les stoïciens, la vertu consistait à rejeter la compassion. Donc c'est pour pas la rejeter, mais il faut la rendre raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut l'humaniser, et il faut la mettre sous la motion de la justice, et surtout sous la motion de l'amour. Et donc, la compassion et la miséricorde ont un double fondement. Elle a le fondement du fait qu'on... On voit une misère, on voit la misère de quelqu'un, donc quelqu'un, soit une misère physique, soit une misère mentale, ou morale, ou humaine, enfin un défaut, une maladie, la folie, le drame, etc. dans la famille, mon tout. Et puis, on dit, ça pourrait être moi. Ou c'est comme si c'était moi. Vous voyez, on se répute à soi le mal de l'autre. C'est très beau, ça. C'est comme au fond le Christ qui a pris sur lui, ou Saint Dominique qui disait, je serai chrétien le jour où je me serai fait tuer comme le Christ, quoi. Parce que la misère des gens qui n'ont pas la foi, il la prend sur lui, et il fait tout pour les convertir. Il prend sur lui la misère, il veut enlever aux gens la misère de l'erreur qui pourrait. La misère est source de tant d'autres, hein, pas seulement celle de l'ignorance, mais de l'erreur qui est très souvent, qui peut être coupable. Donc, vous voyez, donc dans la miséricorde, il y a ce double fondement, et donc celui qui lui-même a souffert, Aristote l'avait remarqué, est plus miséricordieux que celui qui a été louineur pendant toute son existence. Voyez. C'est vrai que le fils à papa, qui n'a jamais eu de problème, qui a toujours eu tout bon, hein, bah le jour où le premier problème tombe dessus, il peut être facilement assez effondré, et en tout cas, il arrive, c'est pas toujours le cas, mais il arrive assez facilement que celui qui est bien pourvu dans tous les domaines, si vous voulez, qui a réussi, enfin, selon les critères du monde, sa trajectoire, et ben, voilà, vis-à-vis du type qui perd, bah lui, il peut s'en foutre, quoi. Parce que par contre, s'il a pris un bon gadin, s'il a eu un cancer dans sa famille proche, il a eu... était confronté au drame d'un divorce, de quelque chose comme ça, d'un emprisonnement injuste, enfin d'un truc affreux, hein, où moi j'ai vu des cas très proches de gens qui venaient se confesser, est-ce que je pardonne ? Ils ont tué ma mère, quoi, donc, dans une guerre civile, hein, on a tué votre mère dans une guerre civile, hein, éventuellement à coup de tronçonneuse, quoi, bon, je vous donne des cas que j'ai vécu, moi. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux gens ? Ouais, ces gens-là, j'étais frappé, c'est que ces gens-là, je crois que ça a fait, en partie, dans le pays du monde où j'ai confessé, ça a fait en partie une génération de saints. Et il paraît qu'il y a un refroidissement extraordinaire à la dévotion mariale, parce que c'est des gens qui comprennent le pardon. Et en fait, dans leur esprit, ils arrivaient à pardonner au niveau de l'esprit surnaturel, bien que leur volonté fût blessée à mort et pour toute la vie. C'est normal. Moi, j'avais un camarade de séminaire, mais j'ai découvert ça à sa mort. Je comprends pourquoi il avait un foutu chien de caractère. J'ai découvert le jour de son enterrement que son père avait été coupé, comme je vous dis, à la tronçonneuse. Donc, évidemment, quand lui était tout petit, il a été marqué par... Et je vous dis, après, le gars, c'est compréhensible qu'il était un peu caractériel, quoi. Et il a fait du bien toute sa vie, avec son foutu chien de caractère. Mais c'est vrai que moi, j'étais ému jusqu'aux larmes. Quand je l'ai appris, et après, il était discret dans le sermon du prêtre qui l'enterrait, quoi. C'est extraordinaire. Donc, vous voyez, celui qui a souffert, il peut être plus miséricordieux. Moi, ça m'arrive un peu moins maintenant. Il y a moins de clodo qui m'aborde, je sais pas. Mais ça m'arrive assez souvent, le gars qui vous aborde, mon père peut vous parler, évidemment, donc on parle, donc dans le ROR, puis on continue, des fois ça s'est amié sur le. Assis tous les deux sur le. Lui avec sa tenue de clodo et moi en habit, évidemment, sur le trottoir en face de la rue du Bac, avec étonnamment un peu des bonnes dames qui venaient mettre leur siècle. Le gars, 6 mois avant, il était ingénieur dans une grande boîte, il était son ménage marchait, au moins apparemment, il avait une situation et tout comme là. La femme l'a plaqué, la situation. Et donc on se dit, ce gars-là, c'est moi, quoi, dans 6 mois, quoi. Enfin, ça peut, je ne le souhaite pas, hein. Il ne faut pas faire le schéma catastrophe, mais je veux dire, attendez, c'est quand même des réalités. Il ne faut pas croire que l'accident n'arrive qu'aux autres. Et quand on a vécu quelque chose comme ça, ça, vous voyez, c'est pourquoi c'est vrai qu'il y a une grâce des convertis aussi. Je vois, par exemple, la misère de l'erreur. Quand vous êtes passé par la détresse de l'absence de foi, je parlais justement au téléphone avec quelqu'un à qui c'est arrivé, et je lui disais, est-ce que vous étiez agnostique ou athée? Il dit, je sais pas, j'étais peut-être plutôt athée. Enfin, on ne se souvient plus, une fois qu'on s'est converti, on ne se souvient plus si on était athée ou agnostique. Ou entité. Enfin, bon. Mais c'est vrai que c'est aussi une grâce, parce que c'est une telle douleur, si vous voulez, que vous comprenez que les gens, ils souffrent. Quoi. Le gars pour qui, si vous voulez, il y a un gros brouillard, et il pense qu'on va vivre là 70 ans, 90 ans, après on meurt comme des chiens, et un peu de terre sur la tête, c'en est fini à jamais. Il y a le sens à rien, il y a la victoire du mal, de l'injustice. Il y a une immense absurde qui monte du monde, c'est le monde Camus. Hein, l'absurde, c'est le péché sans Dieu. Camus a mis ça, et les existentialistes ont fait toucher du doigt. Ça a été, dans ces générations-là, moi j'étais juste en dessous, quand j'étais tout jeune adolescent, ça circulait partout, leur machin, ça a foutu le moral de tout le monde par terre, c'est sûr, parce que c'est vomitif, quoi. La misère du monde, regardée sans le moyen, sans le regard de la miséricorde, c'est une catastrophe. Et je crois que c'est une des raisons de l'impact de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Parce que je crois que Jean-Paul II a su regarder cette misère, et les gens ont vu qu'elle était regardée. Et moi, j'étais très frappé que dès le début, il allait voir les handicapés. Je suis frappé quand on a tant en temps une communauté charismatique qui vient chez nous et qui s'occupe d'handicapés. Et il y en a, ils communient très pieusement, et j'aime bien quand ils sont à la messe, ils répondent, ils assistent très bien. Et l'une d'entre elles est complètement difforme, enfin, elle est horriblement laide. Et quand je la communie, vraiment, pour moi, c'est vraiment une grande grâce. Parce que moi, je dis, c'est l'évangile, point, la Bible. C'est le ciel qui descend dans cette femme, elle est très pieuse, elle assiste bien et tout. Et il y en a une qui, quand elle répond, est-ce que vous me spirit tout haut, elle dit 50 fois tout haut, alors je sais qu'elle est là. Mais c'est très bouleversant, parce qu'elle est complètement handicapée, mais elle assiste vraiment très très bien à la messe. Et c'est complètement bouleversant de voir la beauté. Enfin, quand je donne la communion, je donne la beauté incréée, quoi. Il faut quand même penser ça. La servante de Dieu, une telle, reçoit le corps et le sang de notre Dieu, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et la vie éternelle. Amin, c'est la formule byzantine. Très beau. Et donc cette fille qui est vraiment difforme, elle reçoit cette beauté et pour elle c'est le paradis, quoi. Et pour moi aussi, parce que je lui donne, quoi. Donc, vous voyez, je crois que c'est important de vivre un peu de... Donc la miséricorde, c'est ça, et donc c'est la vertu qui est le plus propre à Dieu, parce que Dieu regarde, vous voyez, la misère du monde. Dieu regarde la misère du monde, et il la voit très bien, vous voyez. Et comme dit le cardinal Journet, un seul soupir poussé dans la charité peut surcompenser, il aime bien les mots comme ça, le maritain il forgeait des mots surcompenser la misère du monde. Et je crois que c'est vrai. Vous voyez, c'est-à-dire que contre le mal, vous voyez, en fait, c'est ce que Jean-Paul II a dit dans son dernier bouquin, qui a été appris récemment par Benoît XVI dans sa prédication sur la miséricorde. Quelle est la limite du mal, qui apparemment a été énorme au XXe siècle et qui, semble-t-il, continue aussi dans des proportions impressionnantes. Mais la limite du mal, c'est la miséricorde. Mais ça, il n'y a que le regard finalement. On peut le sentir, si vous voulez. C'est vrai, quand on voit un type miséricordieux, on l'admire, vous voyez, comme les musulmans admiraient Foucault. C'était l'homme de Dieu, hein, et comme ils admirent, si vous voulez, le fait qu'il y ait une espèce de charité qui soit donnée, enfin bon, pour des gens qui sont pas des forts, enfin bon. Mais c'est vrai que si on rentre vraiment dans le regard de la foi, alors on comprend que la miséricorde de Dieu est la limite du mal. Et soi-même, on est poussé à être miséricordieux à cause de l'embolie du pater dans ce même discours que Jésus nous a donné de notre Père. Il dit, c'est la seule demande qu'il amplifie, remettez aux autres, et à la mesure dont vous a servi pour leur pardonner, c'est celle dont on servira pour vous pardonner à vous. Donc vous voyez, nous sommes inclinés à faire miséricorde dans la perspective que nous-mêmes nous serons pardonnés. Donc il y a un certain côté, je ne dirais pas intéressé, mais un côté où nous sommes mis en jeu, mais c'est bien. Parce que plus on avance, je vais vous dire, parce que quelquefois les gens ils se disent, ben, être religieux c'est cool, on est planqué, c'est cool, on n'a pas de problème. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Enfin, il y a un côté cool, mais il y a un côté pas cool. Parce que si on avance, on voit plus les choses en profondeur. Et donc on voit plus ses propres déficiences. Vous voyez, on se dit, ben, c'est vrai, je suis aussi responsable, peut-être que si j'avais été plus, plus donné à Dieu, peut-être que j'aurais attiré plus d'âmes. Donc est-ce que je ne suis pas responsable de la perte de certaines âmes? En fait, la source de la vocation dominicaine, c'est ça. Les gens vont se damner, et qu'est-ce que je peux faire pour les sauver, quoi. Je crois que c'est important, et vous devez être touché par ça aussi. Hein. Je pense que vous aussi, qui êtes souvent de famille, pas toujours, mais souvent vous êtes de familles qui ont beaucoup reçu, je suis frappé du fait qu'il y a un problème de transmission dans l'art, vous voyez. C'est bien que vous ayez beaucoup reçu, peut-être plus que nous, sous un rapport, hein. Sous un rapport. Mais transmettez, bonsoir, considérez pas ça comme un privilège, si vous voulez. Ou alors un privilège au sens de l'aristocratie qui est essentiellement un service, qui n'est pas tellement un titre, qui est surtout un service pour le bien commun, qui est le fait qu'on s'occupe plus du bien commun que du bien privé. Et je suis frappé d'avoir une vraie famille nombreuse accueille les célibataires, si vous voulez. Une vraie communauté accueille les quelques paumés, enfin dans la mesure de place disponible, si vous voulez, des gars de passage. Bon, puis les vocations varient aussi, mais vous voyez, quand on s'occupe bien, selon l'évangile de ce qu'on doit faire, ça attire justement les électrons libres qui n'ont rien où aller. Et donc vous, qui êtes quand même dans un monde difficile, hein, je le reconnais, c'est pour ça que je dis que j'admire de plus en plus les gens qui viennent en retraite, qui font le PLE, qui font tout ça, ou qui font leur JC, etc., recruter à fond pour ça. Hein. Parce que sinon, le pauvre responsable, il va avoir une dette énorme. Enfin bon, ça c'est une miséricorde annexe, mais... Et donc, vous voyez, il y a ça, mais je pense que on est soi-même motivé en sachant qu'on aura à être pardonné. Je viens de lire récemment, parce qu'on m'a prêté un bouquin, je ne sais pas si je vous en ai parlé, sur le renouveau du mont Athos, en Grèce, où j'ai eu la chance d'aller, deux fois, en 66 et 71, et c'était à l'époque où vraiment, c'était la décadence, les monastères foutaient le camp. Eh bien, il y a eu un renouveau extraordinaire, évidemment dans une orthodoxie un peu fanatique, hein, l'orthodoxie ou la mort dans certains courants, mais quand même avec une grande authenticité, je crois, si le bouquin est exact, de vie spirituelle, et avec des pères, des jeunes qui sont venus là, il y a 1000 religieux, grecs et russes et slaves et autres et serbes, qui sont rentrés au mont Athos en moins de 5 ans. 1000 religieux, dont 27% font des études supérieures. Et sont venus essentiellement parce qu'ils ont trouvé là des Géronda, enfin en russe c'est le Starets, l'ancien, pour donner des conseils spirituels. Et ils ont une règle extrêmement radicale dans ce panorama extraordinaire de l'Athos, où ils recherchent Dieu, et c'est exactement le contraire de ce qu'a fait toute une partie de l'Église occidentale, qui est soi-disant ouvert au monde, soi-disant préoccupé du social et tout, donc il faut vraiment se préoccuper, mais en oubliant un peu la dimension transcendante, ces gars-là. Alors que quand j'y étais, les monastères étaient vides et complètement livrés au rite de chacun, on appelait ça les monastères idiorites, depuis déjà 4 siècles à cause de la présence des Turcs. Ben maintenant, il n'y a plus de monastères idiorites, des monastères cénobitiques, qui reviennent à une vraie observance, parce que ces types sont fascinés par la recherche de Dieu. Et le grand axe, si vous voulez, de cette renaissance, ça a été des jeunes igoumènes, enfin, relativement jeunes, qui ont retrouvé les vieux, et qui ont développé la prière de Jésus, « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, ayez pitié de moi, pécheur. » Et c'est la philokalie, voyons, on redit sans cesse cette prière par laquelle la grandeur de la seigneurie du Christ descend en nous, dans notre misère. Mais on réalise de plus en plus qu'on est misérable. Et ça, c'est vrai que c'est un fait d'expérience. On réalise ça et c'est très bien. Et donc la béatitude des miséricordieux nous fait vivre ça et nous fait pencher sur le prochain en exerçant, on va bientôt terminer, en exerçant la miséricorde, soit corporelle, soit spirituelle, parce qu'on se penche vers le défaut d'autrui, quel qu'il soit, si vous voulez, corporel et surtout spirituel, et on tâche de le pallier. Comme Dieu s'est penché sur notre défaut, comme si vous voulez, je crois que c'est intéressant dans la passée, quand on appuie sur Dieu, c'est très intéressant ça. Parce que c'est vraiment inépuisable. Là, parfois, moi je me dis, bon, ça fait je ne sais pas combien d'années que j'étudie ça, est-ce que je ne vais pas en avoir marre? Mais non, on n'a jamais marre parce que c'est toujours des nouveaux trucs extraordinaires qu'on découvre, qui sont toujours les mêmes, mais pris sous un autre angle. Saint Thomas dit quelque part une chose très impressionnante. Il dit, la miséricorde influe davantage que la justice. Parce que Dieu a fait le monde par miséricorde. Il a fait la rédemption par miséricorde. Donc au début, il y a un acte de miséricorde. Il donne ce qui n'est pas, il donne l'aide qui n'y était pas. Et puis après, il donne le pardon à ceux qui ont été coupables. Et puis après, la grâce, etc. Enfin, en même temps. Et donc, vous voyez, c'est très impressionnant de penser qu'à la racine fondamentale, et c'est une grande originalité du christianisme. Je crois que si vous faites une étude comparative avec même la conception des attributs, des beaux noms divins de Allah dans le Coran, ou dans la Sunna, ou même dans les hadiths, dans les paroles attribuées aux prophètes, vous vous rendez compte que la miséricorde islamique est très différente. D'abord, c'est une miséricorde à l'intérieur de la Ummah, donc entre les croyants, et le Dieu est miséricordieux, mais il est miséricordieux comme vous l'êtes avec votre chien. C'est-à-dire que l'homme reste essentiellement esclave. Il est musulman, il est soumis. Vous voyez? Et de même, la miséricorde bouddhique, sur laquelle se confondent beaucoup d'occidentaux, la miséricorde bouddhique est une compassion pour les gens qui sont dans l'illusion, croyant que l'être est intéressant et qui sont des personnes. Donc on est compassion, on accepte d'être bodhisattva, de se réincarner encore plus longtemps alors qu'on est déjà arrivé à l'illumination, de façon à faire prendre conscience aux gens qu'ils ne sont pas, ou du moins qu'ils ne sont qu'un éclat du tout et qu'il faut qu'ils abandonnent le désir et leur propre personne. Donc c'est le contraire de la miséricorde chrétienne qui amène les gens à l'incandescence de leur personnalité. Et bien ça c'est très très particulier au christianisme. Donc il y a vraiment un aspect très, très touchant, et donc je termine là-dessus. Ça vaut la peine, je pense, il faut prendre aussi un peu des haltes spirituelles. Vous voyez, dans votre trajectoire, prenez à un moment donné, dans vos études supérieures, au début de votre carrière, un temps pour faire une retraite sérieusement, pour vous prendre le temps de vous poser pour ces questions-là. Vous voyez, c'est pas, je crois que ce n'est pas du temps perdu, parce qu'il y a tellement de choses, vous voyez, qui les choses passent si vite, si vous voulez, avec une telle vitesse, et après, il y a quand même, on se dit, mais c'est bête, j'aurais pu... qu'il y a des occasions ratées, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et je pense donc que vous avez beaucoup reçu, c'est bien, enfin certains d'entre vous du moins, ça vous, donc, noblesse oblige, enfin, je crois que ça nous rend encore plus débiteurs des autres, et ça nous met donc en situation d'exercer pour les autres cette miséricorde de l'apostolat qui a été exercée sur nous. Bon, le café caté, ça peut être une occasion, les retraites, le pélé, que sais-je, les discussions, enfin des tas de moyens à amener quelqu'un à une conférence. Mais n'oubliez pas que les gens, si vous voulez, je disais, quand il y a eu le témoignage de Maître Pichon, là, de l'apostolat de rue, là, et j'ai dit cette phrase qui lui a plu, j'ai dit, il faut aller vers ceux qui cherchent. Il y a des gens qui cherchent. Le tout, c'est de chercher ceux qui cherchent pas. Il ne faut pas emmerder ceux qui ne cherchent pas, il faut prier pour eux, il faut être gentil, il faut être disponible s'ils bougent. Mais je veux dire qu'il faut chercher ceux qui cherchent. Et c'est pas forcément des cathos, hein. Ça peut être des cathos, ou ça peut être des sous-cathos, ou des ex-cathos, non, maintenant, il y a toutes les variantes. Mais ça peut être des juifs, ou des musulmans, ou des agnostiques, ou des rien du tout, comme aujourd'hui, quoi. Mais il y a une certaine recherche, donc je crois qu'il ne faut pas avoir peur de ça, parce que je pense que, en plus, si vous voulez, ça fait des gens, je parle de la grâce des convertis, vous voyez, c'est quand même frappant de penser que c'est Jacques et Raël Samaritain qui étaient convertis de l'agnosticisme le plus total, qui avaient décidé de se donner 2 ans de vie avant de se suicider, grâce à Dieu, ils ont rencontré Léon Blois. Mais s'ils n'avaient pas trouvé de raison de vivre, ils se seraient suicidés, quoi. Et bien, c'est des convertis qui ont converti après des tonnes de gens. Là, la grâce du converti, il est un peu emmerdant, le converti, parce que souvent, il est quelquefois un peu pétulant, etc. Bon, il faut aussi des vieux maranes, la barbiche, qui sont toujours restés chrétiens de père en fils depuis 15 siècles, mais ça, à l'église, c'est l'ensemble, tu vois. Et puis, des convertis qui ont une peps terrible, parce qu'ils disent, mais vous savez pas, vous, les vieux, la grâce que vous avez. Bonsoir, vous croyez en Dieu, vous croyez qu'il y a un Dieu qui a fait le monde, vous croyez qu'il y a le Christ qui est Dieu et qui va vous donner des grâces et vous accueillir, qui va vous pardonner vos péchés, et vous bougez pas, et vous restez cool entre vous, à pas donner ça aux autres, mais mon père, on peut pas leur donner, on n'est pas assez formé, ben formez-vous. Et puis on a toujours quand même une formation minimum, vous savez, la formation des autres, elle n'est pas quand même, si c'est du niveau Da Vinci Code, hein, je suis quand même pas, il n'y a pas besoin de faire Bac plus 5 pour, enfin il suffit de lire quelques bouquins basiques, on vous donnera des bouquins, il y aura une librairie, voilà, vous savez, d'apologétique sur même la littérature, même le machin de l'évangile qu'on ressort opportunément à toutes les semaines saintes, l'évangile de Judas, il est connu depuis Saint-Irénée. Enfin, c'est quand même absolument incroyable. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils ont plus établi le texte, donc il y a quand même un truc intéressant. Mais enfin, le souk qu'ils font là-dessus pour des trucs complètement éculés, ça vous assoit par terre, hein. Ça vous assoit. Et donc, on a des richesses extraordinaires, et je pense qu'il ne faut pas avoir... on est souvent un peu trop congelé, quoi, pour les donner, donc... exerçons la miséricorde vis-à-vis des autres, parce qu'au soir de notre vie, c'est le mot de Saint Jean de la Croix, hein, en la tarde de la vida te juzgarán en la mort. Le soir de ta vie, on te jugera, tu seras jugé, on t'examinera sur l'amour, et l'amour dans sa forme concrète de la miséricorde. Parce qu'on peut aimer les égaux, et c'est gratifiant, et il faut avoir c'est ça l'amitié, hein. L'amitié établit une égalité, bon, c'est gratifiant. Même des supérieurs, on peut les aimer, c'est pas défendu, hein. C'est même utile pour eux qui se sentent un peu aimés. Parce qu'au moins, ils procurent le bien commun, c'est quand même aussi un certain sacrifice. C'est pour ça qu'on trouve peu de supérieurs. que c'est assez lourd, quoi. Donc on a une génération qui manque de supérieurs, quoi. Comme disait à Rome, comment faire des évêques, on n'en trouve plus, quoi. Mais donc, on peut aussi aimer les supérieurs. Mais la miséricorde, c'est aimer l'inférieur, la blessure de l'inférieur, qui est inférieur parce qu'il est blessé. Même s'il est général de division, vous savez, foutez-le en prison pendant trois mois, il se casse, il s'effondre. Parce qu'il a perdu son paraître, sa sécurité, sa famille et tout, il n'est plus rien. Derrière les barreaux, rien que ça. Deux mois en tôle, et puis votre nom en gros dans les journaux, le gars qui était le premier et qui menait les hommes au combat comme un héros, banané de là jusque là, tout ce que je vous dis, c'est tout que j'ai vécu. Hein. Et bien, il peut se transformer en loc qui donne tous ses copains pour sortir plus vite. Et devenir un salaud à ce moment-là. Alors, qui va devenir un salaud? On ne sait pas, parce que moi, j'ai peut-être fait comme lui. Donc, c'est là où on doit se dire la miséricorde. Vous voyez, c'est vraiment. C'est pas parce que le mec, il est au-dessus de nous, dans une certaine échelle, qu'il n'a pas une blessure auquel on peut apporter quelque chose. Même si on est tout petit, on peut apporter quelque chose. Et je crois que c'est propre du christianisme, surtout dans les périodes de persécution mentale comme la nôtre. Le chrétien, il est plus petit, il dit oui, mais moi, j'ai un truc que personne n'a, c'est le pardon. C'est la miséricorde et c'est des tas de trucs comme ça. Voilà. Merci de votre attention.
Alors on garde quelques minutes pour des questions.
C'est bien, on a la doxologie en bas.
Moi j'ai une question.
Une page de publicité
et une question. Une page de publicité et une question. La page de publicité, c'est l'apostolat de rue qui est venu vous présenter Frédéric Pichon continue. Le prochain est le 20 mai. Il y en a certains d'entre vous qui y sont allés et qui ont reçu beaucoup de grâce. Donc le prochain, c'est le 20 mai. C'est attaché à la paroisse Saint-Dominique, donc dans le 14e rue de la Tombe-Histoire. On se retrouve pour une messe, ensuite il y a un repas. Et on se retrouve rue Daguerre, qui est une rue commerçante, de 15h à 18h. Donc vous pouvez, venez et voyez, voilà. Vous pouvez venir un quart d'heure, une heure, faire la totale. Voilà pour la page de pub. Et concernant la question, c'est un petit peu anecdotique par rapport à votre... La question est un peu anecdotique par rapport à votre discours, mon père, mais c'est concernant, vous parliez du prêt à intérêt tout à l'heure. Alors dans une vision thomiste, aujourd'hui, tout le monde bénéficie des prêts, certains achètent des maisons avec des prêts à intérêt, l'économie fonctionne énormément, l'industrie bancaire, grâce aux prêts, elle permet de sélectionner des projets, de rémunérer le risque. Et alors aujourd'hui, que dit le dominicain sur ce sujet?
Ouais. Dominica préfère repousser la prochaine fois pour réviser ses bouquins. On va le voir encore. Je peux simplement dire que le principe des médiévaux, c'était que tout prêt était une usure, parce qu'à l'époque, il y avait une stabilité complète des moyens d'échange. Donc actuellement, on est dans je donne simplement le très grand principe, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la question, il faudrait que je revoie un peu la matière. Actuellement, il y a une société dans laquelle les éléments, si vous voulez, matériels et les signes d'échange sont dans un type de rapport qui était complètement différent de celui des médiévaux. Donc une certaine rémunération du risque, etc. Enfin, il y a une certaine lecture, si vous voulez, du prêt intérêt, au moins jusqu'à un certain taux, qui en fait une sorte d'association, si vous voulez, de personnes au sein d'une construction commune. Ce qui est très différent du fait de dire, je te passe quelque chose, je fais rien, 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 et tu me le rapportes avec le double. Qui était le cas, il ne faut pas oublier que le prêt usuraire du Moyen-Âge pouvait atteindre 50, 100%. Et donc c'était très différent. Et en plus, il n'y avait pas du tout un engagement du prestataire avec... Tandis que là, il me semble me souvenir que ce que les moralistes modernes donnent comme solution, c'est que celui qui va donner l'argent, si vous voulez, ou les moyens qui vont permettre de faire le... qui va permettre à la sortie, à la richesse de sortir, enfin construire l'usine, etc., est associé à celui qui fait fructifier ça. Et tous les deux sont des éléments nécessaires d'une aventure qui est la production avec une troisième personne qui est le client, qu'il ne faut jamais oublier. Et tout ça, il y a une aventure commune. Et donc là, on arrive à plus s'équilibrer et à dire donc qu'il est juste que lui se retrouve avec quelque chose qui soit le salaire de son engagement. Ce qui est immoral, c'est de faire du rien à partir de ce qui de quelque chose à partir de rien. Voilà. Mais c'est vraiment un très grand principe. On reviendra là-dessus si on fait l'année prochaine... les commandements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Laure?
Une question un petit peu annexe. Vous avez parlé de Saint-Bernard.
Oui.
Et
Abélard avait fait signer au secours à la cour pontificale et Saint-Bernard lui est rentré dans l'arbre bien aisément.
Oui.
Alors, qui a répondu
entre Abélard et Saint-Bernard?
Il n'a pas énervé sur Abélard,
ou pas? C'est que oui, il s'est un peu énervé, mais sur le fond, c'est-à-dire que Abélard est un peu un préscolastique, c'est-à-dire qu'il est un homme qui s'est beaucoup intéressé à la logique. Et donc il a, si vous voulez, il faisait partie, c'était ce qu'on appelle les artistes, c'était la faculté des arts, donc tout ce qui était rationnel, si vous voulez, qui se développait à côté de la faculté de théologie. Et il a eu raison de travailler la logique, mais il en est arrivé à une sorte de logique et de système de pensée qui était pratiquement coupé de la foi, qui n'en recevait plus l'éclairage ou les redressements nécessaires. Et ce sont donc les abus, si vous voulez, de cette position autonome de la philosophie que Saint-Bernard a combattu. Mais évidemment, si on pousse trop loin dans le sens de Saint-Bernard, on tombe dans le fidéisme. C'est-à-dire une position qui dit, bon ben, la raison s'écrase, c'est toujours la foi qui a raison. Alors c'est pas ça. Donc Saint-Bernard a attiré son attention, et sur certains points, d'ailleurs Abélard a reconnu qu'il avait raison. Mais au point de vue logique, c'était quand même un très grand bonhomme. Et c'est vrai que dans la façon de faire, Saint-Bernard a peut-être pas... voilà, il n'est pas forcément très très gentil. C'est Saint-Jérôme a été encore pire avec l'autre. Non, je canonise pas ça. Oui.
Une question sur la vertu de prudence. Vous avez donné comme synonyme de la prudence la précaution.
Non, c'est pas un synonyme. C'est la précaution est un adjuvant de la prudence. Ça aide la prudence.
Alors, est-ce que le principe de précaution que l'on donne aujourd'hui...
Ah, c'est une excellente question.
Et qu'on a même inscrit dans la Constitution, est-ce que c'est une vertu?
Alors, à mon avis, c'est typiquement... c'est intéressant comme cas. Je crois qu'il y a... C'est là où on perd de vue l'ensemble. C'est-à-dire que la prudence, vous voyez, c'est... un acte de choix éclairé par un conseil et débouchant sur une action. Donc c'est très complexe et ça suppose beaucoup de choses en amont et des choses aussi en aval pour l'exécution. Et donc, dans l'exécution, on fait attention quand vous prenez une décision à ce que les éventuels effets négatifs ne viennent pas annuler le bien que vous attendez de la décision. Mais ça, c'est un élément. Et il ne faut pas que ça vous arrive complètement à vous paralyser. Parce que si vous mettez la précaution est un élément... Mais le fait, par exemple, d'autres éléments comme la nécessité, si vous voulez, d'agir, enfin, donc dans toute vie humaine, il y a un risque, si vous voulez. Il y a un risque qui est concomitant à l'agir même dans un univers de péché. Parce qu'il y a la tuile, peut toujours vous tomber sur la tête. Donc si vous voulez aucun risque, vous ne bougez pas. Je prends un exemple, Sainte Thérèse d'Avila disait, si je n'avais pas fait mes fondations, j'aurais fait beaucoup moins de péchés. Véniel, entendu, mais... Donc je ne fais pas mes précautions. En vertu du principe de précaution, je ne fais pas de fondation. Et donc elle aurait mis un élément... à la place du tout. C'est-à-dire qu'elle a dit non, je vais faire des fondations, ça donnera beaucoup de charité pour les carmélites de tous les pays, et comme j'ai mauvais caractère, je me mettrai en colère contre l'évêque et le chanoine. Et donc je tâcherai de faire beaucoup d'efforts, comme soupe à l'oignon et coton, et je tâcherai de ne pas exploser, quoi. Mais je ne vais pas arrêter sous prétexte de ne pas faire ce bien. Et à mon avis, l'exacerbation du principe de précaution, c'est, pourrait tomber à ça, parce que je ne sais pas concrètement comment il est appliqué, il me semble, moi je vois pour les entreprises qui travaillent chez nous, quelquefois, c'est un petit peu, même les hommes de l'art me disent, bon, il y a eu des progrès depuis 40 ans, mais il y a eu des excès aussi, quoi. C'est-à-dire que quand ça paralyse, l'entreprise, on voit beaucoup de nos entrepreneurs sont prêts à engager des gens, mais ils ne peuvent pas. Parce que, il y a, aïe. C'est pas grave. Ça, voilà, ça fait partie de la... Ou bien on ne parle pas avec les mains. Mais ils ne peuvent pas, parce que justement, il y a tellement de précautions qui sont prises que le... Alors, là, je crois que c'est justement un défaut de la prudence, oui. La paralysie, moi, il me semble, en comparant à ce qui se passe dans nos deux pays européens, que je connais un peu, ou les échos que j'ai de, carrément de l'outre-Atlantique, il y a beaucoup de défauts, je ne canonise pas du tout les autres systèmes, mais c'est-à-dire que chez nous, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une... Cet aspect-là, si vous voulez, et quelques autres, finissent par arrêter un peu ce qui me semble-t-il. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste économique, ça m'a toujours beaucoup rasé. Mais un jour, j'ai félicité François Michelin, parce que je lui ai dit, en lisant un de vos bouquins, Ça m'a plu et je me suis intéressé à l'économie. Bon, puis je suis même obligé professionnellement, si vous voulez. Mais il me semble que quand même, dans la modernité, un des éléments fondamentaux, c'est la prise de risque intelligent. Et donc, la mobilité intelligente. Et donc, une relative précarité intelligente, etc. Donc, avec aussi des flotteurs et tout, sociaux, ça je discute pas, je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il me semble que c'est comme quand vous apprenez à faire de la bicyclette, quoi. Une fois que vous avez fait les simulateurs, il faut lâcher le gamin. Il faut qu'il... Donc il va tomber, il va faire des bobos, gna gna gna, vous n'êtes pas inscrit à la sécurité sociale et vous êtes dénoncé par le chef scout qui n'ira pas dans le machin. Etc. Alors on ne peut faire plus aucun camp. Il faut des trucs en dur qui puissent résister à l'impact d'un Boeing chargé de 37 tonnes de kérosène, sinon vous ne pouvez pas faire le camp scout. Alors donc ça va contre la vie même qu'on prétend soutenir. Et moi, il me semble que c'est typique, par exemple dans les lois sur l'artisanat, sur tout ça, je trouve qu'on pousse trop les gens à faire. Bon, peut-être qu'on rate quelques vocations intellectuelles, mais sous ce prétexte-là, il y a des tas de vocations de manuels qui sont ratées. Parce que les gars, on les oblige à spéculer, entre guillemets, hein, parce qu'ils spéculent, jusqu'à 16 ans et à faire des. Alors qu'ils. Je trouve que ça va contre l'essence de la chose. La prudence économique, c'est quand même, me semble-t-il, enfin en contexte moderne, il y a d'autres économies. L'économie d'un couvent, c'est pas pareil. Hein. Enfin, quoi qu'il y a. Chez nous, forcément, on est mendiant. Donc, il y a une prise de risque calculée. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a un peu anormal chez nous. Quoi, parce que c'est sûr qu'ils ne vont pas recommander ça à tout le monde. Hein. Mais disons, chez les bénitaires, ils sont beaucoup plus sages que nous. Hein. Nous, on n'a pas de revenus. Quoi. Mais eux, ils ont des revenus. Ils calculent. Bon, mais dans l'économie capitaliste, au sens où c'est moralement quand même acceptable, hein, qui n'est pas intrinsèquement pervers, il y a un certain dynamisme qu'il faut créer. Et si vous paralysez par la précaution, la post-caution et la machin, c'est trop, quoi. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il y a des caricatures dans les deux sens. Et c'est vrai qu'aussi, il y a des... Malheureusement, quand vous vivez dans une situation amorale, les forts, si vous voulez, abusent de l'absence de précaution qui peut être prise par le législateur. Donc, si vous voulez, je crois qu'il n'y a pas de solution purement législative. Il faut moraliser, pas au sens de la morale casse-pied, mais il faut que les gens se moralisent eux-mêmes. Et comme dit Solzhenitsyn, le sommet de l'homme est d'accepter de se limiter lui-même. Et il faut faire rentrer ça dans la tête des gens, parce que c'est vrai que si on reste au rapport de force, je crois qu'on n'en sortira pas. C'est pour ça que Ratzinger, enfin maintenant Benoît XVI, dit le fondement d'une société moderne, dans ce qu'elle a de bon, elle a quand même pas mal de bon, hein, dans technique, pratique, matérielle, c'est quand même la moralité naturelle et chrétienne. Ça, si vous l'enlevez, ça ne peut pas tenir. Et c'est pour ça que malheureusement, on a des alternatives qui se présentent du côté de la Oumma, du côté musulman, parce qu'il y a une certaine moralité pénible, casse-pied, etc., triste, tout net, et tout ce que, mais qui est là. Ou bien du côté des échappatoires New Age, parce qu'il y a besoin d'esprit, il y a besoin d'aventure mentale, et la précaution, la détermination de tout, c'est Big Brother et c'est insupportable. Quoi. Allez-y, n'hésitez pas, j'ai encore des piles dans ma tête. Je peux encore tourner un peu.
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on se retrouvera le premier mardi de juin pour le prochain Café Cassé et le dernier avant les vacances scolaires. Et sinon, comme d'habitude, en fait, on fait passer un tronc pour ceux qui veulent participer un petit peu au trajet
Super Lumière.